bienvenue dans ce nouveau podcast bilan de l'E3 2019.
C'est vrai.
Avec des gens super décédés à mes côtés. Et oui, l'E3 a laissé des traces, hein, comme vous pouvez le voir. Et pas seulement de bronzage, n'est-ce pas, mon cher Thomas?
Tout à fait, je vois pas de quoi tu veux parler.
Ah, t'appelles ça le bronzage?
Oui, un gros bronzage, tu connais. Copyright, bien sûr. Romain, l'Américain, est là aussi, regardez sa tête de fou. Un certain Camille A est là aussi.
Hello.
Et le pseudo mec à côté de moi, je sais pas qui c'est, je sais pas, on dirait.
Un pseudo mec.
C'est l'inspecteur Gadget aussi maintenant.
On dirait plus, je sais pas ce qui s'est passé avec son chapeau et ses lunettes de Lexo.
Je reviens de Los Angeles,
moi. Inspecteur Gadget. Putain, tu m'as trahi en fait.
Comme ça.
Comme ça. Ça
va comme ça, exactement. Putain, je suis dégoûté. Et plume à la technique derrière.
Pouffi à la technique.
Je vous jure que c'est vrai.
Le pseudo mec est là et plume.
Je confonds toujours plume et Pouffi à la rédaction. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à les distinguer.
Ah, parce que c'est exactement les mêmes.
Non, mais c'est plume. Pouffi, c'est le prénom qui compte. Enfin, le prénom, le pseudo. Le pseudo qui
compte. C'est vrai que c'est le prénom.
Bon, vous avez vu, on est complètement crevés. Je crois qu'on va s'arrêter là en fait. Voilà, c'était le bilan de l'E3.
Merci
à tous, au revoir. Bon, allez, c'est parti pour
Go Podcast.
Go Podcast, Go E3 2019. Bon alors c'était bien les amis, vous êtes pas trop décédés?
Oh, pas du tout.
C'est vrai?
Pas du tout.
La boisson que j'ai à côté de moi.
Oui effectivement, oui, d'habitude tu bats du Coca Light et là t'es déchaîné quoi.
Non c'est
unleashed. Totalement unleashed. Non mais c'était bien, moi le 3 j'adore, hein. c'est toujours fun.
Ça quel plaisir.
Et ce qui était bien cette année c'est que c'était totalement différent des autres années. En termes de, même d'envergure tu vois, d'ambiance, enfin, il y avait plein de choses différentes, donc ça a rendu les choses intéressantes pour moi.
Tout à fait. Contrairement à ce qu'on a pu entendre de la part de nombreux journalistes et membres de l'industrie présents sur place, qui trouvaient ça passablement chiant ou osef, moi j'ai trouvé qu'en termes de jeu, on a eu suffisamment d'annonces pour que ce soit quand même assez sexy, pas mal
On n'a pas chômé pendant
pas
une
de,
semaine.
Pas mal de vraiment beaucoup de choses à voir, et pour le coup, même si c'était forcément un E3 de fin de gen, c'était sur le plan ludique assez conséquent.
Sur le plan ludique et sur,
et vidéo,
sur le plan de l'observation aussi, enfin, franchement, moi c'était mon cinquième sur place. Et je les ai fait à la suite. Et donc quand j'ai commencé, c'était la génération battait son plein. C'était même plutôt ses débuts, première moitié. Donc moi j'ai jamais connu avant cette année un podcast de fin de
On est tous fatigués.
Un E3 de fin de génération, ce qui fait que ça m'a permis de voir ce que ça change. Et en plus premier E3 sans Sony aussi, donc il y avait quand même une organisation différente, il y avait plein de choses qui changeaient et je trouvais ça intéressant.
Exact. Ah bah justement, ouais. Alors on va commencer par les moments forts de cette E3. Pour nous, hein, bien sûr, c'est toujours pareil. Hein. Vous en avez peut-être d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Alors pour nous, il y a eu Ikumi Nakamura qui devient la coqueluche d'Internet quand elle a présenté Ghostwire Tokyo.
Et oui.
Entre autres.
On se demande qui a mis ça dans le.
Ouais, on se demande franchement là.
Dans le truc, hein, parce que là.
C'est
là,
d'autant plus.
Ceux qui ont la vidéo peuvent l'avoir évolué sur scène.
Marquant danser. Que la conférence Bethesda, c'était la conférence Bethesda. De la gêne. La conférence de la gêne la plus totale. Ouais. Et d'ailleurs, c'était d'une manière générale, c'était l'E3 des hystériques.
Hein. C'est vrai.
Yeah chez Bethesda,
mais ils sont toujours plus ou moins comme ça, les Américains.
Chez Bethesda, toujours. Mais là, ça se répercutait aussi chez les autres, parce qu'à partir du moment où ça a gueulé comme ça chez
Bethesda, les a contaminés.
Ouais. Les autres se sont dit, ah ouais, il faut qu'on fasse aussi bien. Alors chez Ubi, il y a toujours la moitié de la salle est remplie d'employés d'Ubisoft
ouais, c'est ce que j'allais dire.
Donc ça gueule toujours pas mal aussi. Mais là, cette année, c'était encore pire. Et même chez Square Enix, qui était une petite salle, enfin qui se déroulait dans une petite salle, ça a hurlé. Mais des fois, pour des trucs, je dirais pas osef.
Osef, mais pas loin.
Mais pas loin, tu vois. Et
ouais, mais franchement, ça devient la norme en fait. Si tu commences à l'entendre chez les uns,
Mais franchement, Thomas à Bethesda avait la bonne idée d'avoir des boules caisses.
Moi, à toutes les confs.
J'ai jamais ramené de boules caisses avec moi à l'E3. Et je pense je pense que je le ferai parce que il y a des moments où ça hurlait tellement que c'était pénible, tu vois.
Mais c'est un effet de surenchère, notamment dans les réactions démesurées du public, mais aussi dans le volume des bandes annonces, parce que vous l'avez remarqué, notamment pendant la conférence Microsoft, c'est toujours le même type de musique qui accompagne les trailers, c'est toujours un truc avec beaucoup de basses, des trucs rythmés, etc. Et moi, enfin, avec mes petites oreilles fragiles, j'étais très bien dans le public avec mes boules caisses. Mais oui, pour revenir au premier temps fort quand même, puisque.
Donc Nakamura qui a volé le spectacle.
Puisque voilà, c'était effectivement le moment un peu fun, un peu détendu, positif de la conférence Bethesda, même si on y a évidemment vu des choses sympathiques. C'était l'arrivée d'Ikumi Nakamura, donc qui travaille avec désormais Shinji Mikami chez Tango Gameworks,
exact.
Et qui venait annoncer Ghostwire
Tokyo. T'arrives pas à dire Tokyo en fait en plus.
Ouais, c'est dur.
Je sais pas pourquoi.
C'est dur à prononcer. Il y a plein de syllabes et tout. C'est compliqué. Jeu dont on ne sait pour l'instant pas grand chose, si ce n'est qu'on a vu un premier trailer. Et c'est drôle parce que en début de conf, Romain.
Première cinématique plutôt.
Romain me disait, j'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle IP qui soit dévoilée.
Et ben voilà.
Et j'aimerais bien qu'il y ait un truc qui se passe au Japon.
Et Maxime Gerassi disait, moi j'aimerais bien qu'il y ait un dino qui
existe. Non, 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 mais vraiment.
Je te l'ai pas dit, mais d'après toi, pourquoi j'ai dit ça?
Bah voilà. Mes sources de l'industrie.
Mais c'était une des surprises, et puis moi je suis plutôt content de savoir que Mikami bosse sur une nouvelle IP. Alors,
et le trailer est assez alléchant en
le,
plus. Hein.
Le trailer est très sexy, mais ça sent quand même la prochaine génération avec un niveau de réalisme pareil.
Ça fait penser un peu à du Quantum Dream, non? J'ai l'impression.
Bah, c'est l'univers ultra, dans l'univers ultra réaliste, ouais, ça, voilà. Ça joue. Après, comme tu dis, ouais, ça sent la next-gen. Et je pense que c'est un constat qu'on peut faire dans l'ensemble sur pas mal de conférences, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui n'avaient pas de date de sortie ou de vague 2020.
Tout le monde avait le cul entre deux chaises.
Et donc, il y a pas mal, je pense qu'il y a pas mal de jeux qu'on a vu cette année pour la première fois qui seront soit next-gen, soit au moins cross-gen.
Oui, c'est sûr.
Et, Ghostwire Tokyo en fait certainement partie.
Ouais, en tout cas, la prestation scénique de Nakamura, on a senti beaucoup de spontanéité. Un petit peu de gêne et de timidité
en anglais en plus
qui a été transformé. Alors Mikami en anglais et elle derrière qui fait un speech un petit peu plus long
et
à côté de tous les présentateurs, enfin tous les membres de l'industrie qui viennent avec leur discours un peu rodé, très statique sur scène. Chez elle, on a senti quelque chose de très naturel et de vraiment mignon pour le coup, qui changeait un petit peu. Et c'est devenu un mème. Je crois que le gif de son dernier move, Mid-Tené, est sorti en moins d'une heure sur le net. Et voilà, c'était un moment rafraîchissant,
un moment
on va dire,
épique.
De la conférence Bethesda.
Tout à fait.
Est-ce que c'est symptomatique de cette 3 de parler en moment marquant
que des mêmes,
l'intervention sur scène d'une développeuse
quant au jeu?
Oui, voilà, quant au jeu.
Bah écoute, c'était un des moments forts, on va dire, qu'on a sélectionné, voilà, avec ces fameux mouvements que vous pouvez revoir si vous avez la vidéo, les membres privés. Super, devenir un mème en faisant ça, c'est cool hein, quand même. Hein.
Ouais,
t'imagines?
C'est la classe.
Allez, venons, fais tout ça.
Est-ce que c'est un but dans la vie de devenir un
mème? Bien sûr.
En attendant, du coup, on parle
de son jeu.
Voilà.
Mais il n'y a pas eu que ça hein, comme intervention marquante dans les confs 3. Il y en a une autre qui a. Voilà, moi j'étais dans la salle, j'ai pensé à Camille immédiatement.
La toute première, ouais. C'est le premier truc qu'on a eu à l'E3.
À la conférence Microsoft, l'arrivée de Keanu Reeves sur scène.
Tout
pour,
à fait. Ça fait partie de l'autre.
Juste après le reveal de sa présence dans Cyberpunk 2077.
Effectivement. Microsoft qui rachète Double Fine.
Et donc,
et qui fait
le Microsoft Theater de Los Angeles qui a vibré hein, au moment de l'arrivée de Keanu Reeves. Ça hurlait dans la salle.
Il paraît qu'il était époustouflant.
Et là aussi, pareil, hein, comme l'exemple d'avant, quelqu'un qui est pas coincé en fait, qui est pas strictement dans son texte répété,
pour le coup, il a improvisé,
un peu naturel, ouais. Un peu de réaction vis-à-vis de ce qui se dit dans le public, etc.
Je pense qu'il a l'habitude en tant qu'acteur. Bon,
bah oui, c'est
compliqué pour lui.
Son statut d'acteur. Pourtant, c'est pas le mec le plus à l'aise en public, hein, qui aneurisme. Mais malgré tout, tu sens le charisme, tu sens le
charisme.
Et tu dois
sentir tout l'amour d'une salle aussi pour le personnage. Quoi.
Et l'amour
en
de
plus, ouais. Bah, j'ai cru voir tout à l'heure que dans les trucs qui ressortent le plus de l'E3 en termes de mots-clés, etc.,
Keanu
Reeves fait partie du haut du panier.
Bah, c'était déjà le fiancé d'Internet, mais avec ça, c'est carrément devenu le mari immédiatement.
C'est
quoi, il a déjà la bague au doigt.
C'est devenu le dieu vivant d'Internet.
Sa réaction par rapport aux fans qui lui répond en disant que c'est lui qui a coupé le souffle, il lui dit non, c'est toi qui a coupé le souffle. D'ailleurs, vous êtes tous à couper le souffle. Ça, c'est le truc qui est devenu, enfin, ça va devenir, quelque chose dont on va se servir sur Internet pendant des années et des années. Ça restera.
Apparemment, il a gardé un très bon souvenir de son passage à l'E3
sur Terre.
Et ce qui est marrant, c'est que ça avait été gardé ultra secret
chez Microsoft pendant des semaines.
Ils utilisaient un nom de code comme Ubisoft l'avait fait avec Miyamoto pour les lapins crétins. Ils avaient utilisé un nom de code aussi.
Parce que les leaks chez Ubisoft.
Ils l'ont amené le matin même en douce dans sa loge, etc.
Sous une couverture.
Quand ils ont fait la répète la veille, c'était une doublure qui a fait toute cette séquence
pour éviter de mettre la puce à l'oreille.
Donc c'est bien de se dire qu'on arrive à encore avoir des secrets, surprises à l'E3. Ouais.
Bah, c'est une rare chose.
Ils ont réussi à lui faire perdre ses moyens, limite.
Ouais. D'ailleurs, il s'est fait pipi dessus à la fin, t'as pas vu? Et du coup, tout le monde fait ça après sur scène et ça devient même.
You're breathtaking!
Ah, mais voilà, c'était une autre séquence où on avait vraiment du naturel et ça fait du bien.
Que le naturel,
ça change.
Ouais, exactement.
Et en plus, quand c'est associé à un jeu qui a l'air cool aussi, ça aide.
Oui, voilà, c'est ça. On va dire que bon, le jeu s'y prête aussi. Quoi.
Après, il y a aussi le petit père John Bernthal hein, qui apparaît chez Ubi
voilà,
avec son toutou.
Avec son yinche.
Ah oui, le moment d'Ogo.
Le chien qui ressemble au chien de mes voisins. qui est super gentil d'ailleurs.
C'est dingue, John
Bertal était
un mollusque. C'est un mollusque qui me traîne facilement alors que je pèse quand même assez lourd. Ça veut dire la puissance du
bon,
chien,
non,
quoi.
Non, ça va, franchement.
Le.
Bon, toi, t'es encore plus lourd que moi, mais bon.
Le jeu en lui-même m'intéresse pas forcément, mais.
Mais si, tu verras.
John Bertal, genre... ouais.
Il t'intéresse, John Bertal.
Cool. C'était cool qu'il soit là, et avec son chien en plus, histoire d'augmenter sa sympathie à mes yeux.
C'est exactement ça, ouais. Tu mets un petit animal à côté, c'est cool.
Mais. Ouais, c'est quand même triste qu'on parle de trois interventions de personnes et pas de jeu en premier lieu.
Bah quoi, c'est bien les humains aussi.
Hein. Bah, tu parles d'Ubisoft, c'est l'une des rares confs où on a vraiment eu des séquences de gameplay. Comme dans les confs à l'ancienne où on passait quelques minutes à voir véritablement du jeu, parce que pour le reste, et plusieurs l'ont fait remarquer sur place, c'était bah, du trailer et encore du trailer.
Et beaucoup de cinématiques, on y reviendra
après. De la next-gen. Alors tu vois, par exemple, moi j'ai été super étonné que chez Microsoft, on n'ait pas une grosse séquence de gameplay de Gears of War. C'est quand même leur grosse sortie de la fin d'année.
C'est pareil, j'ai pas
un jeu cross-gen, pour l'instant en tout cas. Donc ça sort en septembre et on n'a pas de grosse séquence de la campagne qui impressionne vachement et tout. J'ai trouvé ça vraiment curieux.
Bah, t'as vu le nombre de jeux qui ont été déroulés pendant la conférence Microsoft. Si tu veux pouvoir tous les caser, malheureusement, t'es obligé de faire court pour la plupart d'entre eux, même pour des titres aussi ambitieux et mégatonnes que Gears 5.
Mais tu vois, pour Xbox, la conférence en tout cas, j'espère qu'un jour, on aura, d'ici quelques années, j'espère qu'on aura le fin mot de l'histoire, parce que on nous avait promis une conf de 2 heures, elle en fait 1h40.
Il y a un souci quand même, il s'est passé quelque chose.
Le temps délie les langues, rassure-toi.
Il s'est passé quelque chose, et je pense qu'il y a plusieurs séquences qui ont été cutées, parce que par exemple...
Non, mais honnêtement...
Je pensais avoir un tunnel sur xCloud. Il y avait des rumeurs qui parlaient que justement qu'ils allaient rester longtemps là-dessus. Et xCloud,
ils ont rien fait, quoi.
Vite fait mentionner et ensuite ils sont passés à autre chose. Tu vois.
Non, mais même sur la console, on a la même.
Ouais.
Tu mets juste des caractéristiques.
Mais ça, c'est normal, c'est parce qu'ils se gardent pour l'année prochaine.
Qui peut-être changeront d'ici l'année prochaine.
C'est ce qu'ils ont fait pour la Scorpio. Hein.
Ouais.
C'est exactement. C'était quasiment la même vidéo.
Ah, tu veux dire que dans deux mois ils vont sortir.
Non, l'année prochaine. Mais il a
non, parce que rappelle-toi ce qu'ils avaient fait avec.
La Scorpio, ils l'ont annoncé plus d'un an avant la sortie.
Ouais. Non, mais je sais, mais ensuite, ce qu'ils
mars,
avaient fait après le 3.
Gamer, Digital
voilà,
Foundry,
exactement. Ils étaient Digital Foundry.
C'est ce que Phil Spencer a dit.
Qu'ils ont vu de A à Z et qu'ils ont décortiqué, quoi.
Parce qu'en fait, Phil Spencer a dit que. Ils ont tenté ça avec la Scorpio, les Xbox One X, et que ça avait plutôt été bien reçu par le public. Donc ils ont voulu reproduire un modèle similaire et évidemment il y aura plusieurs temps de communication autour de la console dévoilée petit à petit jusqu'à sa sortie à la fin de l'année prochaine.
Moi je trouve que là ça donne pas envie en fait.
Bah moi
j'ai pas envie de l'attendre.
On en parlait,
mais c'est quoi ça?
C'est pas étonnant qu'ils déballent pas toutes leurs cartes tout de suite.
Non,
parce que
je sais bien, mais ils auraient pu mettre au moins, je sais pas, une cinématique qui donne super envie.
Allô,
regardez ce que vous aurez dans le prochain.
Allô Infinite.
Allô, c'est de la Scarlett.
Moi je trouve que ça suffit pas, quoi. Enfin, je sais pas.
Mais en tout
quand
cas,
tu veux vendre une console, franchement, il faut mettre.
En tout cas,
tu vas voir que quand Sony va présenter la PS5, ils vont pas y aller avec le 2 de la cuillère.
Ouais, mais ils ont un E3 encore d'ici la sortie de la Scarlett. Donc ils ont largement le temps de communiquer dessus et montrer véritablement les jeux.
Mais c'est en juin prochain. Et si la console sort en août? Donc 2 mois avant, tu fais un teasing?
Non, ils ont dit holiday 2020.
Holiday 2020.
Donc octobre, pas avant.
C'est pas énormissime, quoi. Enfin bref.
Mais tu vois,
c'est mon point de vue.
C'est un truc qu'on s'est dit avec Thomas quand on était là-bas et on en parlait un peu avec d'autres gens du milieu qu'on a croisé là-bas. Et on était tous d'accord à se dire que avant la conf, Microsoft avait quand même fait pas mal de teasing. Ils étaient même eux-mêmes dans leur façon de s'exprimer, tu les sentais vraiment chauds avant cette conf, et donc on s'attendait à un déluge d'annonces et de trucs super impressionnants, alors qu'en fait leur conf elle était très bien, mais elle était identique aux confs qu'ils font ces dernières années, tu vois, pas plus excitante.
Voilà,
ou
donc
pas...
c'est ce que je dis, au final c'est déceptif.
Ah non, Julo. Non, tu vas pas t'y mettre toi non plus.
Décevant.
Non mais honnêtement. Ah oui, ça se dit pas déceptif. Okay.
Et c'est vrai qu'il s'ambiançait tout seul juste avant de la lancer. Les messages sur Twitter te laissaient espérer vraiment des trucs mégatonnes.
Moi c'est exactement
surprenant
ce que
et sorti de nulle part.
J'ai la même impression en fait. Tu t'attends à des trucs extraordinaires qui vont
alors,
révolutionner
le
jeu vidéo et au final,
il y a eu beaucoup de choses à montrer. C'était surprenant quand même sur quelques points parce que justement, je crois que c'était après Cyberpunk, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont montrer ? Et c'était un petit jeu indé en fait qui prenait la suite.
RPG Time ?
C'était quoi, je me souviens.
Oui, peut-être bien, ouais.
Le truc en crayonné dans un carnet.
Qui a l'air super
chouette. Ah ouais, très mignon ça.
Mais ça montre aussi le poids que prend le jeu indé chez Microsoft qui est de plus en plus important, mine de rien. Et bah c'était un déluge d'annonces. On voit le magnifique Spiritfarer qu'on a pu essayer le lendemain. Enfin, il y en avait vraiment pour tous les goûts, en l'occurrence.
À l'occurrence
mais tu vois, je me demande si, au fond, cette stratégie de balancer 60 jeux dans une conf, je me demande si c'est la bonne stratégie.
Ah, c'est une très bonne question.
Parce que quand t'en mets beaucoup comme ça, c'est plus difficile d'avoir des trucs qui te restent en tête ensuite, parce que t'as été tellement enseveli sous des jeux.
Bah, t'en pioches 2-3 et c'est
tout, quoi. Bah, peut-être en retirer un peu, mettre des trucs, je sais pas, un peu plus percutants, et peut-être plus... Voilà, là, ils en avaient peut-être pas encore à disposition, mais... mettre plus d'exclusivité, parce que là c'est vrai qu'ils font de la promo pour beaucoup de jeux qui sortiront partout. Ouais. Après, bah oui. Microsoft nous rabâche sans cesse que c'est que l'enjeu n'est plus là pour eux. Mais malgré tout, c'est peut-être comme ça que tu fais ressortir une conf plus après dans les esprits.
12 minutes, c'était durant leur conf aussi ?
Ouais.
Ouais, c'est ça, d'accord. Parce que 12 minutes, c'est pareil.
Bon, tu vois, il y a quand même quelques jeux qui arrivent à sortir du lot, mais c'est plus compliqué.
2-3 qui sont sortis vraiment du lot.
A Way to the Woods, dont on a reparlé entre nous aussi, qui a l'air absolument splendide, auquel on n'a pas pu jouer, celui avec les cerfs.
Ah oui, d'accord, ok. Oui, oui,
dans une espèce de jungle urbaine.
D'ailleurs, tu joues un cerf. Ouais.
Oui.
Effectivement. Ouais. Oui, bah, y a eu quand même beaucoup de choses à montrer, mais moi, encore une fois, mon point de vue, je suis un peu déçu quand même que par rapport à la Scarlett, qu'on attend depuis un an et demi, avec du concret vraiment, bah, ils ont montré que des caractéristiques. Ok. À l'année prochaine,
bah
les gars.
C'est le début, quoi. C'est pour le dire. C'est pour dire à l'exil.
Je trouve ça bizarre. Moi, je pense qu'ils ont eu. Je sais pas, ils ont peut-être eu peur que Sony fasse un truc avant. Et
non, mais ils ont fait. Ils ont dit, vraiment fait comme pour
on
la
va pas
Scorpio.
Montrer nos trucs. On sait jamais.
Non, ce qui est.
Ça fait vraiment genre. On offre des cas de fer. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin. Attendons la suite. Et...
Ce que je trouve surprenant, moi, c'est pour Fable 4. Parce que vraiment, il y avait tous les voyants.
Game Pass sur PC.
Il y avait
aussi.
Tous les voyants pour.
Qui un teasing et tout.
Pour qu'il apparaisse. Il y avait eu la petite fuite sur Mixer et tout.
Bah, l'année prochaine. Mais ouais. Il a peut-être été retiré au dernier moment.
Bah, voilà. Bah, donc il y a un souci quand même.
C'est pour ça. C'est pour
on
ça
n'arrête pas de dire qu'il y a un problème. Quand
je
même.
Voudrais savoir ce qui s'est passé.
Bah oui, s'il y a 20 minutes en moins, comme tu dis, c'est qu'ils ont retiré des trucs ou ils se sont dit que ça suffisait. Et que
après, ils parlaient vraiment de cette génération. Peut-être qu'ils gardent énormément d'annonces.
Oui, c'est possible.
Pour prouver qu'il y aura énormément de choses dès la sortie existent. De la Scarlett et que tout ça sera dévoilé lors d'un événement ultérieur qui sera peut-être d'ailleurs même pas la conférence de l'E3 2020.
Et même si je suis pas concerné directement, ce qu'ils ont montré pour le Xbox Game Pass PC, c'est quand même un rapport qualité-quantité
ouais.
prix.
Ouais, c'est impressionnant.
Le Game Pass console plus le Game Pass PC plus le Xbox Live Gold pour 15$, c'est quand même une belle
donc,
affaire.
50€ ici.
Tu te fais pas. Enfin, t'as pas l'impression de te faire arnaquer. Quoi,
non, pour le coup, c'est un contenu qui est vraiment super conséquent. Mm. Surtout que je crois que c'est un des points qu'on voulait aborder aussi.
Oui, c'est ce que j'allais dire justement.
La plupart des éditeurs commencent
les abonnements, tout ça, machin.
Voilà, balancer leur abonnement. C'était l'un des points de la conférence Ubisoft avec le Ubiplay Plus. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà hâte qu'on accélère tout ça et que t'en aies plein qui se soient cassés la gueule et qu'on revienne à quelque chose de plus recentré parce que tu peux pas démultiplier comme ça les abonnements chez tous les éditeurs.
Ils sont obligés de le faire maintenant.
Moi,
en fait.
Mes propres
abos
entre Netflix, MyCanal, machin, déjà j'en ai ras le cul.
Ah ouais.
Vraiment. Ça me saoule,
mais rappelle-toi les services de renseignement téléphonique quand le 12 a été privatisé. Il y a eu 118, 712, ouais, 118, ouais. 218. Il y en a eu une dizaine qui se sont lancés tous en même temps.
Ça n'existe plus.
Il en reste deux.
Il en reste plus qu'un.
Peut-être un ou deux, ouais. Tu vois.
C'est pour ça que je dis, j'ai envie qu'on passe très vite, justement, à la guerre, qui est plein de morts.
Moi,
et qu'on reste sur quelques acteurs.
Ils sont vraiment obligés de tenter maintenant, quoi. Parce que s'ils
n'essayent
pas maintenant, il sera trop tard après. Mais c'est sûr et certain qu'ils ne tiendront pas tous.
Chacun veut sa part du gâteau.
De toute façon, regarde, les jeux Ubisoft, doit y en avoir aussi dans le Game Pass. Donc il y a des trucs qui se retrouvent dans plusieurs services. Donc au bout d'un moment, c'est sûr qu'ils n'auront pas tous. Enfin, ils serviront pas tous.
Après, ils gardent aussi les meilleurs titres pour eux. Enfin, ce qui n'est pas normal en même temps, mais bon.
Parce que mine de rien, ils commencent déjà à en avoir un certain nombre. Donc il y a Ubisoft, il y a le Game Pass, t'as le PlayStation Now,
t'as
Electronic Arts, ouais, ça fait déjà pas mal. Hein. Je pense qu'on n'a pas fini.
Il y aura un abonnement pour la Stadia aussi.
Pas que.
C'est l'un des soucis qu'ils ont eu en termes de communication. On pensait un temps qu'il fallait prendre un abonnement et en plus racheter des jeux. Non, ça sera l'un ou l'autre, mais il y aura aussi un abonnement de jeux pour la Stadia.
Et Apple Play aussi.
Oui, Apple Pay. Après, ce ne sont pas les mêmes types de jeux, mais ça fait encore un service de jeu.
Pour les consommateurs, c'est encore un truc que tu claques tous les mois si jamais tu es intéressé.
Après, on te propose toute cette offre-là et toi, tu fais ton choix. Il n'y a rien qui t'oblige
à
t'abonner à tout ça. Mais pour la conf Microsoft, bien, mais pas hallucinant, quoi. Pas marquant de manière forever. Tu vois, quand on fait les classements des moments marquants de l'histoire de l'E3, je pense pas qu'il y ait un moment de cette conf Xbox qui ressort. Si, peut-être Keanu Reeves,
Reeves,
c'est tout, quoi. Et là, c'est plus pour le côté fun du truc que pour le, oui, voilà, l'importance historique vis-à-vis du jeu vidéo. Et pour le reste des confs, bah, on a Bethesda, on en a parlé. Hier, il n'y avait pas de conférence. Et Ubi.
Bethesda, c'est catastrophique. Pour moi, c'était vraiment.
Ubi, c'était classique. Devolver, c'était n'importe quoi. Du début à la fin.
Comme on pouvait s'y attendre.
C'était what the fuck, mais alors un point.
Ah, mais c'était
chouette. Ah, bah pour le coup, oui.
Les mecs qui balancent une borne d'arcade.
Si t'as le truc what the fuck, oui,
c'est des conférences.
On dirait le Hellfest version.
La compilation parodique de plusieurs jeux de l'éditeur. Il y avait plein de choses très intéressantes chez Devolver.
Il y a du catch à un moment donné.
Mais juste pour revenir vite fait sur Bethesda, c'est vrai que moi ce qui m'avait plus peur, c'est de commencer sur un jeu mobile qui est Blade et ensuite enchaîner sur Fallout 76 qui sont pour l'instant deux échecs. Fallout 76 qui est un échec et Blade qui a beaucoup de mal à décoller en bêta, etc.
Blade Pascal, tu connais
pas. Donc ça me fait peur une conférence qui commence sur deux jeux qui sont comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Quoi.
Bah, c'est là où tu vois le public qu'il y avait dans la salle pour Bethesda. C'est parce que Fallout 76. Quand même un bide, faut le dire.
Bah, c'est pas
les gens hurlaient dans la salle, alors que même Todd Howard sur la scène était en train de faire son mea culpa. Tu vois, il était en train de lister tout ce qui n'allait pas, et les gens étaient là, waouh, trop bien. Et c'est là où tu vois qu'il y avait que des employés de Bethesda dans les premiers rangs, disséminés un peu partout, etc. Et d'autant plus que Fallout 76, ils annoncent toutes les nouveautés qu'ils vont rajouter, mais c'était que des trucs qui avaient été volontairement pas mis dans le jeu pour en faire un truc à part. Tu vois, on rajoute des NPC, on rajoute des trucs. Ce sont des choses qui auraient dû être là de base.
Ah, ouais, même le centre de la conférence qui est finalement Doom Eternal, enfin une des gros parties.
Ah oui, Doom Eternal, c'est quand même.
C'est pas une surprise quoi. Je veux dire, il y a rien de trop là-dedans. C'était teasé depuis des mois et des mois. On a vu plein de vidéos de gameplay. On sait ce qu'il en retourne.
Mais ça défonce.
Thomas l'a même vu avant.
Ça défonce.
Ça défonce, mais effectivement, ça a rien à. Pour moi, c'est pas un jeu de 3.
Fin de génération. Et moi, au vu du contenu de cette conf, je comprends pas pourquoi ils en ont fait une en fait.
C'est ça, ouais, clairement.
Pour moi, Ghostwire Tokyo. Tu le filais à Microsoft pour sa conf, et le reste, tu faisais des communiqués de presse ou des trailers.
On n'oublie pas Deathloop quand même, parce qu'on est passé un petit peu vite par-dessus.
Ah, ça m'a moins marqué. Ça.
Bah, Arkane Studio quand même.
Le loop du Death.
Je veux dire que là, pour l'instant, c'est, encore une fois, c'est une cinématique. Donc forcément, ouais. On n'est pas très avancé sur ce que va être le jeu exactement. On a un concept d'affrontement un contre un qui dure... et qui repop éternellement, mais à part ça, on n'a rien du tout, et c'est assez compliqué de se faire un avis dessus. Mais
oui, mais on a un nom derrière.
Comme c'est Arkane.
Et pour l'instant, moi, je leur accorde le bénéfice du doute.
Tu connais Black Reef ou pas?
Bon, ça aurait été bien qu'on en voit un peu plus quand même.
Mais justement, c'était un petit peu le 3 des cinématiques. Hein. C'est ce que tout le monde déplore un peu partout.
Bah, ça manquait de gameplay. Clairement,
il n'y a pas beaucoup de gameplay, quoi. À part peut-être Nintendo avec ses jeux, bon, qu'on connaissait déjà, mais. Moi, ils ont montré quelques trucs.
Après, si je suis totalement honnête,
et Square,
ça m'a pas gêné, moi.
Ouais.
Parce que franchement,
c'est frustrant quand même.
Ouais, mais regarder une conf où tu tapes un quart d'heure de gameplay, moi, ça m'emmerde.
Non, peut-être pas un quart d'heure, mais deux minutes, tu vois. Voilà.
J'ai pas. En fait, à aucun moment. Enfin, je voyais les commentaires sur Twitter, etc. Genre pas de gameplay. Mais moi, au fond, ça m'a pas gêné.
Le gameplay, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont, pour le coup, ils ont tout reposé sur du gameplay quasiment.
Oui, mais c'était pas une conférence, c'était un truc
étalé.
C'était
un stream, si tu veux faire un stream où tu présentes des jeux plus en détail, ok, mais une conf, faut qu'il y ait quand même du rythme.
Mais
c'est vrai que le gameplay.
Faut que ça rende durable, les cinématiques, c'est sûr. Hein.
Le gameplay, ça te casse un peu dans ton rythme.
En tant que spectateur, on a tous connu des moments où tu pars sur 10 minutes de gameplay d'un jeu dont t'as strictement rien à péter.
Voilà, c'est pour ça
et
aussi.
Et où bah, tu t'endors et tu rentres dans un état léthargique devant ton écran en disant vite la suite.
On peut rester sur 1 minute, 32 minutes et réussir à faire quelque chose de raisonnable.
Oui, dose régulière, on va dire.
C'est possible aussi.
C'est pour Gears, ça, par exemple, tu disais qu'il n'y a pas eu de gameplay sur Gears, c'est un peu étrange.
J'étais étonné,
Après, la petite séquence vidéo était plutôt jolie, mais c'est vrai qu'avec un peu de gameplay, ça aurait été peut-être plus relevé.
Mais là, toutes ces cinématiques, dans la plupart des cas, comme on le disait au début, je pense vraiment que c'est lié à la génération à venir qui va pointer le bout de son nez et pas autre chose. Parce que. Les éditeurs ont souvent été accusés de nous bullshiter dans les séquences de gameplay qu'on voyait pendant les confs.
Avec des gros PC.
Donc ils
qui
se sont
derrière.
Peut-être dit, on va jouer la sécurité, on va montrer des cinématiques, plutôt que de montrer du gameplay qu'on va promettre sur Xbox One et PS4, alors que les gens savent pertinemment que ça tournera pas dessus.
Normalement. Donc, enfin, pas aussi beau en tout cas.
Je ne sais pas. Hein, c'est une théorie que j'ai. Et après, à côté de toutes ces conférences. Il y a eu le Nintendo Direct qui a bouclé, la boucle. Et là.
15 heures de Nintendo Direct.
Bah, c'est ouais, 40, revoir, 45 minutes, je crois, de mémoire. Et c'était,
ah oui, je parle du Treehouse, moi, et toi, pour moi.
Et c'était assez
oui,
dense.
Oui, 45 minutes.
Oui, enfin, plus que dense.
C'est très dense,
mine de rien. Infernal.
C'était infernal. Plus il s'en rappelle, il arrêtait pas de pleurer.
C'est vrai, j'ai pleuré.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que certains l'avaient vu en avance. Ouais. Certains l'avaient vu en avance avec signature d'embargo.
Alors ils se sont écartés un petit peu de la ligne qu'ils avaient officiellement annoncée avant que le direct commence, à savoir que le focus serait fait sur les jeux qui sortiraient jusqu'à la fin 2019. Finalement on a vu un petit peu au-delà quand même, on a vu du 2020 et sans doute bien plus loin avec le One More Thing qui à mon avis.
Alors là c'est 2021 je pense, voilà, minimum. À mon avis. Non, 2021, c'est bien. Je pense.
Mais c'est assez étonnant, mine de rien.
Parce qu'ils ont déjà le moteur et tout. Donc.
Nintendo a déjà relativement peu tendance à faire des suites de jeux, des suites directes de jeux Zelda. Et sur la même génération de machines, c'est encore plus étonnant.
Bah, c'est arrivé et c'était le meilleur Zelda 3D de l'univers. Donc,
oui. Après,
ouais, sur DS aussi, c'était bien.
Comme tu y vas.
Ils étaient bien.
Mais globalement, c'est rare. Et après.
Quant à Luigi,
il y a, faut pas oublier que comme il l'avait dit, ils n'ont pas présenté de nouvelle Switch à l'E3, ça ils l'avaient déclaré avant, mais mine de rien les rumeurs et autres bruits de couloir sont toujours là, et moi ça m'étonnerait pas que le prochain Breath of the Wild exploite le gain de puissance de la prochaine Switch quoi. Même si apparemment faut pas s'attendre à un gap énorme, ça aidera forcément.
Bah, apparemment elle sera entrée en production aussi visiblement donc.
Bah oui, ça c'est logique, mais il faut savoir quand ils l'annonceront. Ils vont surtout certainement faire comme ils font toujours, nous balancer un Nintendo Direct par surprise
demain,
il est en train de passer au moment où on enregistre.
Et gros truc aussi, ils ont annoncé le retard d'Animal Crossing, qui est quand même un jeu très attendu.
D'ailleurs la bourse s'est écroulée à cause de ça.
Il y a eu ça et d'autres choses, mais j'arrive plus à me souvenir des autres raisons. En fait, ils avaient listé 2-3 points qui ont influé là-dessus.
Ils ont parlé à un moment donné du bien-être des équipes de développement, si tu te rappelles.
Ils ont retardé Animal Crossing.
Je ne sais pas à quel point c'est du bullshit ou pas, mais ça a été une des raisons invoquées pour éviter le crunch à outrance. Ils préfèrent décaler la sortie d'un jeu qui est évidemment très attendu à 2020.
Surtout qu'ils ont de quoi faire pour la fin d'année, donc ça va, ils sont pas à la rue.
On a eu la date de sortie de Link's Awakening pour le 20 septembre.
Il y a Luigi's Mansion.
Luigi's Mansion 3, alors qui lui n'a pas encore de date de sortie définitive.
Non, mais c'est 2019.
On reste sur 2019.
Ah bah, Pokémon sur 3, moi, il fait partie des jeux que j'ai le plus retenu. Hein.
Pokémon qui sort aussi. Donc, quand t'as un Pokémon et un Zelda qui sortent la même année, tu te dis ça va, t'as pas la rate au courbouillon pour
encore
pour
un
le
Zelda,
reste.
Deux Zelda. Parce qu'on oublie qu'il y a Dance of Hyrule qui est sorti pendant.
Ouais, Zelda Awakening.
Ouais, mais bon,
c'est trop beau aussi.
System seller.
C'est vrai.
Non, mais ça peut être un bon seller quand même.
Ah oui, c'est sûr, mais c'est pas les gens vont pas dire waouh, quand Dance of Hyrule est sorti, je vais acheter une Switch, tu vois.
Franchement, moi je sais pas.
Mais tu l'as déjà la Switch.
Ouais, mais moi ça me tenterait quand même. Si j'avais pas la Switch.
Non, je parle pas de ça, hein, je parle de Cadence of Hyrule.
Ah pardon. Ah oui non.
Là, tu vois.
Non.
Ah non, Link's Awakening, il va vendre des Switch, c'est sûr.
C'est clair et net que ça me fait acheter des consoles. C'est sûr et certain.
C'est sûr, ouais.
C'est hyper
mais mignon. Mais Thomas, je sais pas ce qu'il en pense.
Thomas
Pignon,
mais
un truc qui m'a étonné, c'est que le stand Nintendo était massif. Bon, après on entrera plus dans les détails sur le salon, mais le stand Nintendo était massif et la zone consacrée à Link's Awakening était toute petite. Comparativement au stand dans son ensemble, il y avait une très grosse zone Pokémon, une grosse zone Luigi's Mansion, et il y avait deux petites rangées de bornes avec deux maquettes pour les.
Il y avait un petit diorama rigolo, j'ai l'impression.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais comparativement au reste,
c'est un remake là où les deux autres sont deux grosses suites.
Mais c'est pas n'importe quel remake non plus.
C'est effectivement pas n'importe quel remake. Switch. Mais toute proportion gardée. C'est un jeu qu'on connaît déjà, entre guillemets, sur le bout des doigts à quelques changements près. Pour le reste.
Franchement, t'as pas envie de le refaire quand tu vois ça?
Ah, bah si, moi c'est mon Zelda 2D préféré. Donc
j'avais tellement kiffé.
Évidemment que j'ai envie de le refaire.
Moi, je suis en train d'y jouer sur Game Boy.
Est chou comme tout. En plus, tu vas avoir ce système qu'on a découvert pendant le Nintendo Direct de donjons un peu customisables qui sera disponible là d'ailleurs où il y avait la souris dans la version DX. Voilà, c'est des petites nouveautés, plus le fait qu'on ait plus ce défilement par case qui va forcément changer un petit peu la progression. Évidemment que j'ai envie de le refaire, mais je sais que je le connais déjà.
Plumeau, t'as pas été déçu qu'il n'y ait pas de nouvelles de Bayonetta 3?
Non.
Tu t'y attendais?
T'arrêtais pas d'en parler?
Non, je pensais vraiment qu'ils allaient en parler, mais s'ils le font pas, tant mieux. Mais regarde, tu vois le Nintendo Direct, quasiment tous les mois tu vas avoir un gros truc. Encore une fois, leur agenda, ils le remplissent mais parfaitement. Ils te montrent les trucs avec des dates à chaque fois, avec des extraits de gameplay pour te dire bah regardez, ça ressemble à ça.
C'est vrai qu'ils ont un tableau de marche, ils le respectent.
Bah, il s'agit du Platinum, puisque Astral Chain maintenant on a sa date de sortie.
Exactement.
Aussi,
ouais. Donc,
ah non, mais là de jusqu'à novembre, c'est royal pour eux. On sait déjà pour l'année prochaine, donc avec Animal Crossing. J'imagine très fort que Luigi's Mansion il sortira genre le 30 ou le 31 octobre pour dire tiens, c'est Halloween, éclatez-vous à vous faire peur dans un hôtel. Donc plus Fire Emblem, enfin on en oublie des milliers à chaque fois.
Que plus tous les portages qui ont été annoncés,
plus
Witcher,
tous les portages, plus tous les jeux indés.
Tous les jeux
indés.
Il y a toutes les news qui vous font.
Ah mais de toute façon,
si
faut pas s'inquiéter pour la Switch niveau jeu pour cette fin d'année. Hein,
je pense que depuis le début,
Nintendo dit qu'ils veulent pas reproduire l'erreur de la Wii U et ils se tiennent à cette règle.
Pour les 3 prochaines années, je pense qu'on n'a rien à craindre.
Même pour l'an 4000, je pense qu'ils sont prévus.
Il faut voir maintenant quand ils vont annoncer les nouveaux modèles. Surtout un, parce qu'il y en a un, ça devrait être la même chose en version portable, mais le modèle un peu plus puissant, voir ce que ça pourra apporter. Mais ils ont calmé aussi beaucoup de gens avec leur One More Thing de Breath of the Wild 2.
Enfin, c'est le seul qui a un vrai bon gros One More Thing, parce que celui du Big Gods and Monsters,
le
problème c'est qu'on n'a pas compris ce que c'était en fait. C'est un spin-off d'Assassin's Creed Odyssey à la base. Mais rien ne l'indiquait. Dire, à moins d'être dans le secret des dieux comme certains, tu pouvais pas deviner ce que c'était avec la présentation qu'il y a eu finalement.
Dave Guillemot, tu connais ou pas?
Ouais.
C'est ton refre.
Ah ouais, c'est exactement. Ouais.
C'est vrai que Microsoft avait pas vraiment de One More Thing, parce que Halo Infinite, on savait qu'il allait.
Eh ben être voilà, j'en reviens à ça.
Et Bethesda, on n'avait pas non plus de mémoire.
Non. Enfin, je
sais même plus sur quoi ça s'est terminé.
Après, toute proportion gardée, c'était évident de toute façon qu'il y avait un Zelda qui était en développement. On va dire que c'est juste une
Aonuma l'avait déjà déclaré.
C'est juste une officialisation que ce sera la suite directe de Breath of the Wild.
Poufy, est-ce que tu peux remettre quelques secondes en arrière
le hug là?
Regardez ce hug gênant. Parce qu'ils savent pas trop s'ils vont se serrer la main.
Ah oui, il y a eu un petit moment d'hésitation.
Ou se faire la bise, c'est formidable.
Ces petits moments d'hésitation. Oh
là là, quelle horreur. J'aimerais tellement pas être à leur place quand il se passe un truc.
Regarde,
c'est génial. J'avais pas remarqué.
Donc là, ils s'avancent l'un vers l'autre.
Poignée de main, hug, on sait pas trop.
Ça arrive.
Et à la fin, c'est un demi-hug bizarre.
Ça arrive à tout le monde.
Eh ben, on vous enverra sur scène tous les deux l'année prochaine. On verra ce que vous allez donner.
Tiens, on fera les trucs.
C'est ce que j'allais dire. Les trucs. High five, on saute.
Je sais pas comment ça s'appelle, mais les basketteurs, ils aiment bien faire ce genre de trucs. Bah là, justement.
Un truc qui dure un quart d'heure,
exactement. Je sais pas comment ils font pour retenir toute. Toute leur tape et tout, c'est hallucinant.
Ouais, on passe au salon en lui-même ou pas?
Non, parce que
tu
voulais Gods and Monsters, bah regarde, c'est là.
Le PC Gaming Show, là, t'en as pensé quoi?
Le PC Gaming Show, il était un peu.
Arrête, t'as kiffé, dis pas le contraire.
C'est ce que j'ai dit, j'ai même pas fini mon propos.
Il a même pas laissé finir ça.
Il était un peu mieux que l'année dernière, après c'était pas non plus bluffant de chez bluffant, il y avait des jeux à laquelle on s'attendait qui ont été présentés. Notamment Planet Zoo, j'arrête pas d'en parler ici, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est de Frontier.
Oui, c'est vrai que tu nous en parles tous les jours.
Frontier, c'est un gros studio, et là, ils relancent leur licence Planet, donc avec Planet Coaster précédemment, qui était déjà un très bon jeu, et là, ils font la même chose avec Planet Zoo, et honnêtement, ça a l'air extraordinaire, de ce que j'en ai vu, ça a l'air vraiment très bon. Et ils ont balancé du gameplay, donc ça, c'est plutôt cool. Il y a eu pas mal de jeux indés, vraiment toute une myriade de jeux indés. Je sais pas si t'as un peu suivi.
Je crois qu'il y a Carrion qui a été dévoilé pendant le PC Gaming World Show notamment.
C'était pas chez Devolver qu'il a été dévoilé.
Je sais plus on l'a vu avant, je crois, au PC Gaming Show.
PC Gaming Show, d'accord.
J'avais rencontré les développeurs et le soir même, ils m'en avaient parlé.
On a vu Tripwire qui est un grand studio, on a vu Chivalry 2 qui est un jeu qui a extrêmement bien marché.
Toi, tu m'as dit en aparté que ça allait pas. Ça arrivait pas à la fille de Mordo.
En fait, le truc, c'est comme le jeu Mordo est sorti il y a, on va dire, 3 mois.
Mais j'ai l'impression que c'est exactement pareil.
C'est le même principe.
C'est
en fait.
Sûr.
Mais c'est moins bordélique.
Moi, tu me dis c'est Mordo, je te crois. Hein.
Moi, je veux pas parler du cliché des jeux de chevaliers sur PC, mais je veux pas dire, j'ai l'impression qu'on voit que ça.
Non, mais Mordo, ça avait l'air fun. Là, c'est.
Le truc, c'est qu'il y a des mecs de chez Mordo qui ont travaillé à la base sur Chivalry.
Mais je trouve ça presque plus mignon, graphiquement.
Plus mignon, ouais.
Graphiquement, je trouve ça mignon.
C'est kawaii, tu veux dire.
C'est cute, hein.
Bah regarde, t'as du sang sur le logo et tout, c'est classe.
Mais c'est vrai que Chivalry, premier du nom, avait extrêmement bien marché sur PC, et, mais avec Mordo qui est en face, qui est plus complexe dans les combats, etc. On
sait trop pas mignon, si ça va passer. Trop mignon.
Le mec qui s'enfuit, il a les bras coupés, il se fait trancher la tête. Quoi.
Pour le finir, fatal finish him.
Donc ouais, non, c'était pas un grand. Alors si après il y a Plume qui nous dira qu'il y aurait Frankie, c'est vrai que sa présence
oui, Frankie Ward, ouais.
Illumine, illumine.
Ah bah surtout quand elle est déguisée en requin. C'est vrai. Alors là, j'avoue que ça me fait beaucoup rire.
Mais arrête.
Non, il y avait. Bêtises. Moi, je suis content que. Comment Sam.
T'as le grand frère,
enfin le développeur de.
Tiens, ta femme.
Her Story.
C'est elle, Frankie.
Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle était creepy. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle était creepy.
On dirait le Joker.
Le développeur de Her Story qui était là, Sam Barwell, qui est venu présenter un petit peu Telling Lies avec un des acteurs du truc. Ça, c'était plutôt sympa,
même
s'il n'a pas donné
de Mutant Year Zero qui était présenté aussi.
C'était encore complet, comme le Kind of Funny Show, hein, avec 60 jeux aussi. Mais là, en fait, c'était l'orgie, quoi. C'était trop.
J'en sais rien, j'ai même pas regardé, je vous avoue. Là.
À la fin, à la
je te
fin
mets
du PC, de la conférence PC, Camille, t'étais content ou t'étais pas content?
Non, c'est entre les deux, en fait.
Tu t'attendais à ça,
je m'attendais pas à grand-chose, et de ce que j'en ai vu, c'était quand même plutôt sympa. Et d'ailleurs, les retours, que ce soit sur Twitter ou autre, ont été plutôt bons pour celui-là. Et
je trouve qu'ils ont montré quand même des choses, quoi.
Oui, franchement, ils s'améliorent d'année en année, et on peut pas leur reprocher ça, quoi. C'est... Et oui, il y a aussi un mode de... Enfin, le prochain Sniper Elite qui est présenté, où là, ça sera uniquement sur du mode zombie. Voilà. Et puis il y a le fameux jeu de requin là. C'est pour ça qu'elle s'est déguisée en requin, qui avait l'air complètement what the fuck et qui a l'air toujours
comme dans Fortnite. T'as un skin de requin. Okay. Non, c'est vrai.
Ouais.
Et chez Mioutron aussi qui a été présenté.
Oui,
c'est lui qui a été présenté.
Le problème c'est qu'ils ont annoncé que ça sortait sur PC exclusivement sur l'Epic Game Store, alors qu'à la base c'était un jeu Steam.
Ouais.
Et donc pour le coup les backers PC sont pas contents du tout. Donc on va voir ce qui va se passer par la suite là-dessus. Mais la Shenmue va de déconvenu en déconvenu en termes de communication. C'est un peu triste. Voilà. Et d'ailleurs, Camille, j'étais avant le début de l'E3, j'étais au Ghostbusters Fanfest, tu sais.
Ah oui,
et
il y avait
un petit stand Planet Coaster spécialement pour le DLC.
Mais c'est que c'est très sympa ce qu'ils ont fait aussi.
Ah, j'aimerais bien, mais ça sort pas sur console, donc j'ai rien pour y jouer moi. Donc,
Mais je crois que Planet Coaster est sorti.
Sur Mac,
il me semble qu'il y a un portage qui a été fait. Ouais,
sur console
Sur Mac, qui est dispo.
Je regarderai. Mais bon, voilà pour les conférences et les trucs comme ça.
Il faut retenir aussi un petit truc par rapport à Stadia.
Oui.
Je voulais qu'on dise un mot sur Stadia. Toi, Thomas, tu y as joué?
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de Stadia, Google Stadia?
Eh bien, je suis un peu circonspect,
c'est
en
vrai?
Fait, parce que on y a joué déjà en câblé, donc normalement avec une connexion mégaton stable qui tient la route, etc. On y a joué à Los Angeles avec des serveurs qui étaient basés à San Francisco, donc pas très éloigné du lieu où on a pu l'essayer. Et alors, c'était un très bon choix pour le coup. Doom Eternal, qui est un jeu hyper nerveux, 60 FPS constant, etc. En plus, auquel j'avais joué sur PC quelques semaines avant, donc ça tombait vraiment très bien en termes de comparatif. Le compte y est pas encore vraiment finalement, parce que y a des chutes de framerate par moment, il y a des vrais problèmes de chargement de texture qui donnent des choses un petit peu bizarres.
Ça fait peur quand même, ça.
Alors, on pourrait
surtout
dire...
si tu sais que le côté technique était quand même bien assuré et que...
Oui, parce que la promesse à la base, c'est de dire, quelle que soit la machine sur laquelle vous allez jouer, vous allez avoir quelque chose de magnifique, comme si vous aviez un PC turbo coûteux, etc.
Ce que j'ai vu,
c'est même plus beau dans certains cas grâce au cloud avec les multicaméras et trucs comme ça.
Oui, parce que ils insistaient aussi, l'un des représentants avec qui j'ai discuté me faisait comprendre qu'en termes par exemple de multijoueur, ça allait être beaucoup plus simple parce que ça allait être des flux qui allaient être séparés, qui allait permettre plus de calculs pour chacun des joueurs indépendamment, etc., etc. Ce que j'ai vu sur Doom Eternal, alors ça se joue, hein, c'est pas le problème, c'est pas injouable au possible.
Encore heureux, putain.
Ouais, sauf que le souci, c'est que moi j'ai eu des moments, alors c'est arrivé plusieurs fois, donc c'était pas juste un coup comme ça. Avec le bouton RB, tu fais apparaître ta roue qui te permet de changer d'arme vraiment si tu veux avoir tout ton armement d'un coup.
Et c'est pas très pratique.
Il y a des moments où ça ne sortait pas en fait. T'appuies et il n'y a rien qui vient. T'es en plein combat, Doom, tu sautes, tu strafes, tu choisis ta stratégie à la microseconde, t'es obligé de prendre plein de décisions. Et là, tu peux pas changer d'arme comme tu veux. Pour le coup, c'est un vrai problème.
Ah bah là, il y a un souci.
T'es handicapé en fait par le système. Et je le répète, on était connecté en filaire. Donc, je vous laisse imaginer en Wi-Fi avec un signal qui est peut-être pas forcément toujours aussi stable. Enfin, pour le coup, ça risque de décevoir pas mal de joueurs finalement.
Et en plus, on n'a pas vu l'essentiel pour les jeux multi, c'est-à-dire l'input lag, etc. Ou dans des jeux comme Apex ou Fortnite.
Ah bah alors là, la moindre milliseconde
peut être fatale pour l'autre et ça risque d'être problématique là-dessus. Quoi,
mais c'est là où je peux rebondir sur le projet xCloud. Parce qu'au Xbox Showcase, il y avait des téléphones qui faisaient tourner Projet xCloud. Et contrairement à la démo de Stadia que Thomas a pu essayer, bah là, les téléphones étaient en Wi-Fi. D'accord. Et j'ai demandé, les serveurs étaient à plus de 600 km.
Donc c'est déjà énorme.
Et j'ai essayé trois jeux différents pour voir justement le truc. Halo 5 et Gears of War 4, aucun problème. Peut-être quelques petits ralentissements sur Halo, mais visuellement ça rendait bien. Tu vois, pas de problème d'affichage des textures ou quoi que ce soit, ça rendait bien.
Bah, surtout quand t'es en Wi-Fi.
Et curieusement, le seul jeu où j'ai senti un peu d'input lag, et c'est le seul des trois, c'était Resident Evil 7. Donc là, pour le coup, un jeu solo
qui est pas le plus gourmand en plus,
c'est pas forcément le plus gênant.
C'est pas dramatique.
Mais globalement, j'ai vraiment senti le potentiel de la technique, parce que là, franchement, on n'était pas câblé, donc c'était vraiment du Wi-Fi. Surtout qu'en plus, c'était le Wi-Fi du truc où il y avait plein de monde, beaucoup de gens connectés et machin, et ça fonctionnait déjà pas mal, je pense, par rapport au ressenti que Thomas a eu sur Stadia et le mien sur xCloud. À l'heure actuelle, j'aurais tendance à penser que xCloud est plus avancé et plus proche d'être utilisable par le public
et de tenir ses promesses
que Stadia. Par contre, il y a beaucoup moins, d'après ce qu'ils nous ont dit jusqu'à présent, il y a l'air d'avoir beaucoup moins d'options sur xCloud que sur Stadia, parce que Stadia, la première conférence, bah justement, il parlait quand t'es en multi, chaque joueur a son flux. Dans certains jeux, tu peux changer d'angle de caméra en temps réel pour pouvoir avoir différents axes.
Il y avait plein de
fonctionnalités sur Stadia qui étaient proposées, qui n'ont pas encore eu d'équivalent sur xCloud. Mais en tout cas, pour faire une partie normale comme si tu jouais sur ta console, xCloud a l'air plus confortable que Stadia. Et par contre, juste pour rester sur Stadia un dernier moment, je sais pas si tu l'as remarqué ça, Thomas, mais j'ai trouvé qu'il était quand même s'ils n'avaient pas de stand, ils étaient quand même vachement présents, parce qu'il y a plein de jeux maintenant, quand ils te l'annoncent, ils te disent voilà, ça sort sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Il est vraiment souvent listé comme une plateforme à part pendant les presses sur le salon.
Bah, t'as des développeurs qui le considèrent, enfin, ou qui la considèrent véritablement comme une plateforme à part, comme
clairement.
Toutes les autres. Je fais juste une brève parenthèse, mais après l'EA Play, moi j'ai eu la chance d'assister à une espèce de table ronde avec des développeurs indés. Et l'un d'entre eux disait, de mon point de vue, la Stadia, ça sera comme toutes les autres plateformes, il va falloir X temps avant que le système soit véritablement maîtrisé et que les développeurs puissent faire des portages qui soient similaires en tout point à ceux qui vont sortir sur les consoles de futures générations. Et juste pour finir sur une note un peu plus positive, tu parlais de l'input lag. Voilà, là pour le coup, j'ai vraiment absolument rien ressenti. Ça répondait au doigt et à l'œil. Et surtout, la manette, elle est ultra confortable. J'étais super bien avec.
Tu disais même que la croix de direction, c'était la meilleure que de toutes les machines qu'il y a eu pour l'instant.
Oui, Nintendo mis à part, la croix directionnelle, elle est super chouette, elle est solide, il y a un vrai effet de clic, tu sens véritablement ce que tu fais.
Nintendo.
Sur la manette Pro.
Ah oui,
sur la Switch, en termes de manette comparable, elle est vraiment très agréable à prendre en main. Elle est pas ouf en termes d'ergonomie, mais elle fait super bien le taf. J'ai été très à l'aise dessus, que ce soit les sticks, le plastique, les gâchettes, vraiment.
Elle est légère ?
Je la remplacerai, enfin je l'utiliserai sans problème à la place de ma DualShock 4 par exemple, tu vois.
Ouais, c'est un signe ça.
Quelle classe.
Tant qu'on est dans le streaming, il y a un truc dont on n'a pas parlé.
Oui.
Qui concerne id Software, qui a fait quand même son annonce pendant la conf Bethesda d'une technologie Orion, donc, qui servira justement à améliorer. Directement à partir du code du jeu le streaming le jeu en streaming de manière générale. Il n'y a pas eu de démonstration, j'imagine, pendant que vous étiez là-bas, mais j'ose imaginer que si eux aussi commencent à se mettre là-dessus et qu'ils ont des solutions pour que chaque jeu ait à l'intérieur même de son code des moyens de faciliter le transit des données et des performances du jeu pour que tout se passe bien chez l'utilisateur, peut-être que ça va se démocratiser aussi avec un peu de chance, vu que c'est un peu des pros quand même, hein. ils sont quand même très très forts en ce qui concerne la technologie chez id Software. J'imagine qu'ils vont partager ça avec d'autres personnes, que ça va pas rester chez Bethesda et qu'ils enverront ça à d'autres développeurs, quitte à faire payer un petit peu cher. Que ça peut bénéficier aussi bien à Stadia qu'au Project X Cloud, même si, d'après ce que j'ai cru comprendre, en vous écoutant, chez Microsoft, ils ont l'air beaucoup plus sereins pour l'instant.
Mais ce qui est marrant, c'est que c'était pas forcément quelque chose qui était mis en avant dans les conférences publiques ou dans les événements publics par le passé, mais là les moteurs et les outils destinés aux développeurs ça devient vraiment un enjeu majeur, parce qu'ils nous le mettent même en avant pendant les confs. Alors que techniquement maintenant les conférences, elles n'en sont plus vraiment, c'est plutôt des grandes publicité en direct, tu vois, où il te déroule des trailers et des trucs comme ça, mais il y a quand même des petites séquences sur les outils mis à disposition des développeurs. Et
là pour Orion, ils préviennent, tu vois, ils disent un jour vous verrez, il y aura un Orion Seal of Quality en bas des trucs pour vous dire que ça, quand vous y jouerez en streaming, ça va passer tout seul.
Vous penserez à nous.
En attendant le streaming, on a vraiment pas fini d'en entendre parler. Mais ce qui est marrant, c'est que maintenant, on dirait qu'ils se veulent rassurants auprès des joueurs en même temps, parce qu'ils disent non, mais vous inquiétez pas, ça symbolise pas la mort des consoles. C'est vraiment deux choses différentes qui peuvent vivre en parallèle. Donc c'est en fonction de tes envies de jeu. Et moi, je trouve que ça peut être complémentaire en fait, parce que quand tu pars en vacances ou trucs comme ça, tu peux pas forcément prendre ta console avec toi, parce que toi t'as pas de télé, soit parce que ça prend de la place ou des trucs comme ça. Si tu peux continuer ta partie en streaming tranquillement,
les opposer de toute manière, c'est de la connerie, hein, c'est tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que il y a une pizza ici et un kebab là que tu t'as pas le choix de t'as pas le droit de choisir, t'as pas le droit d'avoir autre chose. Enfin, tu vois,
c'est genre une pizza au kebab.
Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux, quoi. C'est juste des options supplémentaires pour te permettre de continuer à jouer où tu veux, quand tu veux, dans les meilleures conditions possibles.
Et ce qui est marrant aussi, c'est que on sait que sur PS4, le remote play existe depuis des années maintenant. Jusqu'à présent, de mémoire, sur Xbox, tu pouvais relier ta console à ton PC ou trucs comme ça, mais c'était un système très spécifique. Et là, en parallèle au projet xCloud, Microsoft a aussi annoncé pendant sa conf la démocratisation justement du remote play. Alors, je me rappelle plus comment ils l'appellent, mais ils appellent pas ça remote play évidemment, mais c'est l'équivalent. En fait, tu pourras sur ton téléphone ou trucs comme ça streamer ta console en fait. Donc,
console devient un serveur.
Voilà. Ça, c'est juste pour toi spécifiquement. Et étant un gros utilisateur de remote play, je trouve ça super intéressant. Déjà, je leur ai demandé, est-ce que vous prévoyez, parce que j'ai pas de PC moi, est-ce que vous prévoyez de faire une application comme ça pour Mac, pour pouvoir streamer sa Xbox sur un Mac? Ils m'ont dit oui, pour l'instant on annonce pas de trucs spécifiques, mais à terme l'idée c'est d'être partout tu vois, c'est comme pour le projet xCloud. Donc ça aussi c'est un autre enjeu, le fait de pouvoir jouer n'importe où sur n'importe quelle plateforme. C'est quelque chose qu'on nous a répété assez souvent. On veut que vous puissiez jouer partout, c'était vraiment une phrase clé,
à condition d'avoir la fibre quand même.
Oui,
parce que quand on a fait les tests d'éligibilité là, comment dire, enfin moi ça passe, mais tu vois, le remote play, j'ai essayé la Red Hat plusieurs fois, moi ça marche pas, hein. Parce que ma console elle est en wifi chez moi. J'ai l'impression qu'en wifi ça fonctionne pas, pourtant j'ai la fibre.
Bah tu sais, elle est en wifi aussi chez moi, hein. C'est juste que j'ai la fibre.
Ouais, moi aussi.
Bah non,
ça
marche.
J'ai dû faire un truc qui marchait pas, alors
ça marche, parce qu'en plus je vais dire, je l'ai essayé dans plein de conditions différentes. Globalement ça marche, globalement ça marche bien. Essaye, je sais pas si t'as vu ça,
d'ouvrir les portes.
Non, de baisser la résolution. Plutôt que de l'envoyer en 1080p ou un truc comme ça, baisser ça et ça marchera peut-être mieux. Mais bon, on s'écarte du sujet.
Complètement. Rapprochons les wagons, comme dirait.
On a fait le tour, je pense, des confs et de Stadia, et
Hugo
Martin, de Cloud.
Et Marty Stratton,
etc.
On en parle pas alors, non?
Bah, ça peut mettre leurs bras, comme à peu près tous les gens qui font des conférences. À chaque fois, les bras, ils sont comme ça, longs du corps, et tu sais pas trop pourquoi.
Dites à Spencer qu'en bouge qu'un sur les deux.
Aussi.
Ah ouais, il met la main dans la poche, non, généralement, de l'autre côté.
Et t'as un bras qui pend le long du corps et l'autre qui appuie son propos.
Alors, sinon, il y avait une autre partie qu'on voulait aborder, ça a été intitulé Inside le salon.
Ouais, enfin, quelle classe.
Avec l'absence de Sony notamment, comment était l'ambiance dans le salon sans Sony, tout ça? Est-ce que les gens parlaient, crachaient sur Sony, disaient que c'était des dieux vivants?
Le truc que j'ai noté principalement, et dès la première journée,
dès l'aube,
c'est que le fameux hall, hall constructeur, enfin tel qu'on l'appelait avant, là où autrefois il y avait Microsoft, Sony et Nintendo. Bah là maintenant il y a plus que Nintendo.
Là t'as des ballots de paille, tu sais, comme dans les Simpsons. T'as qui passait. T'entendais le vent et
tout. En fait c'était marrant parce que ce hall-là tu pouvais presque le couper en deux, parce que d'un côté t'avais Nintendo, Sega qui avait un stand plus grand que d'habitude, Oculus qui avait quand même un bon stand aussi,
et l'Indiecade.
L'Indiecade qui était collé là. Mais mine de rien, que Indiecade soit là, c'est aussi représentatif.
Ça dit quelque chose.
Il fallait remplir de l'espace. Et de l'autre moitié de ce hall, t'avais un stand Big Ben, que t'es un peu plus gros que d'habitude aussi. Et le reste, soit rien, soit des micro-stands. C'était hallucinant. L'espace. En fait, si t'étais un éditeur qui se réveillait super tard, genre, ah ouais, j'ai besoin d'un stand à l'E3, je pense qu'ils auraient pu te trouver un espace très facilement. C'est, en termes de configuration et d'espace, ça n'avait rien à voir. Autant l'autre hall, c'était assez similaire aux années précédentes.
Tous les éditeurs tiers qui sont là et qui ont leur stand qui va bien.
Ils étaient toujours là, surtout qu'il y en avait quelques-uns qui étaient très gros. Fortnite, c'était immense. Borderlands 3, parce que tout est avec ça, Borderlands 3, c'était immense.
Bethesda, ils occupaient de la place aussi.
Bethesda était très grand aussi. Ubisoft, Warner.
Bandai Namco qui avait fait atterrir un vaisseau aussi.
Ils avaient fait le vaisseau de Bulma. Enfin bref, d'accord. De l'autre côté, c'était Showtime, c'était vraiment les gros stands d'éditeurs. Là, on sentait un E3 à l'ancienne. Mais alors côté constructeur, c'était un peu triste.
Est-ce que si on s'y prend maintenant, vous pourrez avoir un tréteau pour l'année prochaine pour avoir un stand Gameblog.
Un stand Gameblog.
Juste un tréteau.
Mais faut s'y prendre maintenant. Hein,
alors
parce que
la gueule
on sait jamais.
De certains stands dans l'Indiecade, je pense qu'on aurait pu on aurait pu être là avec un tréteau. Et c'était.
Il y avait un mec qui exposait des boîtes de céréales dans la partie Indiecade.
C'est vrai.
Ouais, j'ai pas compris. J'ai été mesmerisé. Jusqu'au bout.
Mais c'était en termes d'aspect et d'organisation, etc. C'était assez différent aussi. D'ailleurs, sur la pelouse qui est devant le Convention Center, traditionnellement, il y avait toujours Sony qui était là aussi. Ils avaient toujours une sorte de bar pour faire la promo de leur jeu de baseball avec une boutique de merchandising PlayStation à côté. Bah là, forcément, ils n'étaient pas là du tout. Et là, c'était HQ Nordic qui a trouvé un autre moyen de claquer sa thune. Ils avaient fait un truc Destroy All Humans, Monster Truck, machin. Que des licences qui ont vraiment soulevé les foules pendant des générations et des générations. Mmh. Et donc là, c'est THQ qui avait une grosse place sur... ils avaient un gros stand aussi sur le...
Oui. Beaucoup de bandes de démonstration.
Bah justement, en termes de bandes de jeux, qui c'est qui avait plus de bandes? C'est pas Nintendo, non? Comme toujours.
Ah, je pense que c'est pas impossible que ce soit Nintendo, parce qu'ils en avaient beaucoup et
c'était
vraiment
tellement
aligné,
grand. Ouais. Mais chez THQ, il y avait de quoi faire aussi, hein, parce que tous les jeux étaient vraiment bien représentés.
Et les files d'attente infernales.
Mais ça, j'en ai vu effectivement en photo.
Borderlands 3, 3 heures.
Mais je comprends pas ça, je trouve ça dingue.
3 heures.
Ils adorent Borderlands.
Non, mais je sais bien, mais.
Tu joues à deux jeux dans la journée.
Bah oui, c'est ça.
Bah mais quand t'es public, généralement, c'est un peu comme ça que ça se passe.
Ouais, hein. FF7 Remake.
Je peux comprendre.
FF7 Remake, non seulement la queue faisait le tour du stand,
c'est 4 fois le tour du
mais
salon.
De chaque côté, la queue, elle faisait des serpentins comme ça, enfin des zigzags.
Ah ouais, pour gagner de la place.
C'était, j'ai pas pensé à demander la durée de la queue pour FF7.
Ah bah là, c'est 2 heures.
Mais en tout cas, il donnait des tickets en début de journée pour revenir, tu sais, revenez à telle heure et trucs comme ça.
Il donnait des affaires de rechange.
Non mais même là c'était blindé super vite. Je crois que j'ai jamais vu. Et évidemment chez Nintendo les files d'attente
étaient
incroyables aussi. Mais je crois que j'ai jamais vu des files d'attente aussi longues à l'E3 que cette année.
Il y a moins de monde que l'année dernière.
Moins de monde.
Bah c'est quoi, 20 000 en moins quand même.
Alors peut-être qu'il
Je parle du public moi.
Ouais. Peut-être qu'il y a une poignée de jeux qui attirait plus de monde.
Oui.
Alors qu'avant c'était plus réparti.
Et tout le monde était
Doom Eternal, c'est pareil. Le dernier jour, je suis passé en début d'après-midi, c'était déjà fini pour la journée. Tu pouvais plus réclamer de slot pour aller y jouer.
Bah remarque, tu vois Capcom qui avait un stand uniquement pour l'extension de Monster Hunter. Donc il y avait même pas de nouveaux jeux. Ils avaient une petite partie e-sport pour Street Fighter derrière, mais ils présentaient rien de vraiment nouveau. Donc avoir un stand, tu attirais pas forcément énormément de monde avec ça. C'était particulier, mais il y a des moments où tu sentais quand même la présence du public. Il y a des moments où c'était dans la journée où c'était plus blindé que d'autres. Hein. Par contre, dans le stand constructeur, à part à côté de Nintendo, on se marchait pas dessus. Hein. C'était,
non, il y avait
la
pas
circulation
foule.
Était plutôt, plutôt aisée. Ouais, c'était.
C'est quoi les trucs what the fuck que vous pouvez dire que vous avez vu là-bas?
truc what the fuck.
Ouais.
Bah le stand Fortnite qui était une fois encore une vraie fête foraine, ouais, rempli de gens déguisés comme les des acteurs hein, ah, déguisés comme les personnages du jeu,
comme les skins,
qui
hein.
se baladaient un peu partout et dès que tu les regardais, ils faisaient la danse, tu sais, avec les bras là ou les
ah, putain, putain, l'espace où il fallait danser, j'ai eu tellement de peine.
Ah oui, il y avait des box pour les gens
pour les animateurs qui étaient là et qui surjouaient la hype et l'entrain à tout point de vue.
Moi, je sais qu'il y a un plateau, l'un de vous deux, il y a un plateau derrière lui, il y a un mec que j'avais vu passer sur Twitter, un mec en fauteuil roulant, mais qui s'était fait un chariot qui ressemblait un peu à un dragon. Je sais pas si vous vous en rappelez.
Avec son fauteuil roulant,
je l'ai pas vu. Son fauteuil roulant, ouais, absolument.
J'ai pas vu.
Qui était mais magnifique. Il est derrière un de tes plateaux. Et après, je l'ai revu sur Twitter et il s'est fait son kiff. Hein. Faudra que vous remarquiez. Je sais plus quel plateau c'était. Je sais pas. Je me demande si c'est pas celui de Grandia d'ailleurs, où ça passe derrière comme ça.
Ah peut-être. Il y en a d'autres qui sont passés durant le plateau de Grandia.
Et ouais. gros plébiscite aussi une fois encore
pour Activision
du côté de la presse pour Cyberpunk. Parce que là, il était coté public aussi sur le stand Warner, parce qu'aux États-Unis, c'est Warner qui édite Cyberpunk. Mais nous aussi, on avait un stand pour la presse. Sur rendez-vous uniquement dans les couloirs où il y a tous les bureaux pour les behind closed doors,
les
etc.
couloirs sombres.
Et moi j'ai été à la présentation le jeudi après-midi, à la toute fin d'après-midi en fait, et il y avait encore la queue pour assister au truc et la salle elle était pleine, enfin il y avait même plus de gens dans la salle que de sièges. J'ai regardé toute la présentation de Cyberpunk assis par terre en fait. Ils avaient plus de place.
Et Morgane n'avait pas le droit de rentrer, c'est ça?
Non, elle a pas pu rentrer.
Elle a essayé. Bon, en même temps, le jeu, elle s'en foutait. C'était la veste qui l'intéressait et rien d'autre.
Tu sais qu'elle coûte cher apparemment. Non, Romain, il s'est renseigné.
J'ai regardé. Elle part à
400 euros.
Ouais,
parce qu'on la revend sur leur boutique, elle coûtera 150, même pas 100. Et
ouais, voilà. Certainement.
Et les gens
mais
qui l'ont acheté 400, bah, ils l'auront dans le cul.
Mais ouais, le Grosse demande pour
Gamescom, j'espère qu'elle sera offerte encore.
Pour
je dis ça.
Bah à la Gamescom, ils avaient l'année dernière, ils avaient redonné cette
figurine. Ah oui, la figurine. C'est
vrai, ils vont certainement faire pareil. Mais qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre?
Parce que je sais que l'année dernière, que ce soit le 3 ou la Gamescom, ils avaient fait une pour Cyberpunk, ils avaient fait une sorte de bar hyper.
Ah, il était encore. Il était encore là. C'était le même.
Il y avait ça. Ouais.
Il recycle.
Moi, je l'ai juste vu en passant parce qu'il a fallu tout de suite que j'aille à la présentation.
Non, t'avais une zone d'attente parce que dès le début de journée, je pense qu'ils prenaient un peu de retard sur les présentations. En fait,
ils ont commencé un quart d'heure.
Le timing était assez serré, donc oui, on attendait dans un espèce de faux bar avant de pouvoir accéder à la salle de Hands Off.
Ah si, un truc what the fuck que j'ai, enfin what the fuck façon de parler que j'ai remarqué sur plusieurs stands et qui m'a fait halluciner, c'est que par exemple 2K ou Facebook, parce que Facebook avait un stand aussi, enfin il y a différents stands comme ça qui avaient prévu des zones sur leur stand pour les comme dans des aquariums un peu pour les youtubeurs ou les streamers. En fait, ils avaient prévu des bureaux avec des écrans, avec des ordinateurs où les mecs pouvaient aller streamer pendant la journée. Et donc c'est pour ça que je suis passé un moment à côté de quelqu'un qui était en train de streamer Fortnite. Donc je me dis, tu vas à l'E3.
Et le mec il continue à streamer.
Tu vas
Fortnite.
À l'E3 pour streamer Fortnite. Quel intérêt. Donc,
en même temps, il n'a pas payé son billet. Donc bon, pour lui, c'est tout bénef.
Bah, je sais pas, tu sais, il y avait du public là à l'E3.
Ah oui.
Donc, bah, attends, mais ça, tu vois tes streamers préférés.
C'était peut-être les concours aussi qu'ils font. Hein, parce que, enfin, ceci dit, je sais pas si c'était au même moment, mais ils profitent de l'E3 pour faire leur méga concours à $1 million. Donc bon. Ils ont pas mal de monde.
Non mais là en l'occurrence, il n'y avait pas que Fortnite, puisque par exemple sur le stand 2K c'était un spot réservé pour les gens qui voulaient streamer du Borderlands ou des trucs comme ça.
Bah c'est ce qu'ils avaient fait quand
les gens vont à l'E3 pour streamer, tu vois.
Bah Camille, quand il a été voir Borderlands 3 justement, c'était à Los Angeles, je sais plus.
Ils avaient
invité des youtubeurs et qui streamaient sur place le jeu quoi. Donc j'ai l'impression que c'est aussi une tendance maintenant.
Bah, ils sont tellement
des youtubeurs pour qu'ils streament.
Voilà. Ils sont tellement obligés de faire du contenu tout le temps en permanence que.
Pour eux ça leur fait de la visibilité.
Mais ça fait un peu bizarre.
Et je crois que pour Breakpoint ils ont fait pareil aussi, comme pour Borderlands, ils ont invité des youtubeurs et ils ont streamé des trucs en direct.
Ouais, peut-être une nouvelle façon de
communiquer,
de montrer leur jeu, effectivement. D'autres trucs aussi importants, un gros morceau. Est-ce que. Enfin, il y a eu une petite polémique sur Twitter. Enfin, une petite. Sur Twitter, c'est jamais une petite polémique. Hein. Quand ça démarre, il y a toujours
shitstorm sur Twitter.
C'est toujours un shitstorm gigantesque derrière. Il y a le rédacteur chef de jeuxvideo.com qui s'est demandé si c'était pas le 3 des remakes et des remasterisations, etc. Et que pour lui, c'était vraiment ça, quoi. Donc il y a plein de gens qui sont tombés à bras raccourcis disant que c'était scandaleux pour le rédacteur en chef du premier site de jeux vidéo en Europe et machin, etc. Enfin, de France, je sais plus. d'Europe aussi de toute façon, et de sortir ce genre de truc alors qu'on n'a jamais eu autant de jeux qu'actuellement, autant de diversité, autant d'éclectisme.
Il regrette.
Donc est-ce que quelque part il a pas un peu raison ou bien il a complètement tort?
Il regrette que ce qui est plus mis en avant ce soit des portages, des remasters, des rééditions, des trucs comme ça. Après le public en même temps, qu'est-ce qu'il veut? Il veut aussi avoir son petit Zelda, son petit confort, son petit Mario.
Vous avez trouvé...
enfin, tu vois, des trucs normaux.
Vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup de remasters et de trucs comme ça.
Non, il y en a quand même un paquet.
Tu vois,
cette E3 précisément, je parle, hein, vraiment.
Je crois que Thomas a fait une liste.
Exact.
Une liste qui est loin d'être exhaustive.
Je me disais bien que ça ne peut pas être Plume parce que c'était bien fait. Détends-toi.
Ouais, bah tu sais, je vais te détendre ton micro aussi.
C'est vrai
un peu, ouais.
Et si je te mettais le micro dans les seufs?
Non, parce que regarde,
vas-y, lis la liste.
Tu vois rien que pour la conférence Square Enix. Il y a eu énormément de...
Mais Square Enix, c'est pas étonnant. Il y a eu une chier de remaster.
Oui, une chier.
Oui, mais...
voire une très chier.
Après... Square Enix fait ça depuis des années.
Après, c'est la proportion que tu mets dans ta conférence.
Oui,
alors,
voilà,
alors que tu peux parfaitement les mettre de côté et dire tiens, moi je vais me concentrer sur Final Fantasy VII Remake,
et toujours
sur Avengers. Voilà, mais là ils en ont mis quand même beaucoup, que ce soit Final Fantasy VIII, Romancing Saga 3. On a eu la.
Tous les Resident Evil, hop là.
On a eu The Witcher 3 qui arrive sur Switch, Collection of Mana évidemment qui arrive enfin en Europe. Bon, Panzer Dragoon, moi c'était la plus grosse surprise. Alors, je dois avouer que je m'attendais absolument pas. Resident, tu l'as dit. Dragon Quest 11S, bon, ça on savait déjà aussi.
Oui.
Crystal Chronicles,
Remaster de
YouTube qui se remasterise. Last Remnant qui se remasterise.
Osef.
Détruisez tous les humains.
Voilà, Destroy All Humans, Desgrandia, Oddworld, mais Soulstorm, c'est encore un cas assez à part. Link's Awakening évidemment, qui est aussi
Link's Awakening, il est à part. On n'y touche pas.
Ok.
Non, mais c'est un remake.
Faut faire le distinguo entre des portages.
Bête et méchant, tout dégueulasse.
Des portages et des remakes.
Voilà. Pour moi, les remakes, ça reste encore passable, franchement.
Déjà,
quand je vois Link's Awakening, là, j'ai envie d'y jouer.
Bah, ça demande du taf.
Voilà,
le remake, il demande forcément de s'y coller
la base,
un petit peu. Même Destroy All Humans, hein.
Oui,
c'est comme Crash Bandicoot. Ils sont repartis vraiment. Enfin, ils avaient pas les assets, donc ils ont vraiment recomposé complètement le jeu.
Tant mieux parce qu'il était moyen. Donc,
mais ça demande forcément un petit peu de taf. Après, si on prend le cas de Square Enix,
et comme FF7 Remake, c'est plus le même
jeu. C'est plus facile de balancer un FF8 lifté que d'annoncer un FF16 qui va prendre un temps fou, etc. Enfin, les nouveaux jeux, les épisodes canoniques pour Square Enix aujourd'hui, c'est devenu un petit peu compliqué ces derniers temps. Bon, ben, les fans, ils sont là, ils sont prêts à claquer leur thune pour tout et n'importe quoi. Tu leur balances des remasters. Et encore, les Final Fantasy, on n'a même pas eu le droit à la compile pour l'instant. Parce que le jour où ils balancent, je sais pas, les 6 premiers par exemple, ou jusqu'au 9 sur une même galette, voilà, il y a de quoi faire aussi.
Oui, mais pourquoi? Parce que les gens aussi achètent, quoi. Ils jouent sur la nostalgie.
Pourquoi on a encore toujours plus de DLC parce que les gens achètent.
Exactement.
Pourquoi on a des microtransactions parce que les gens sont prêts à claquer leur thune pour
pourquoi
tout n'importe quoi.
Pourquoi ils font des micro-consoles, enfin des mini-consoles parce qu'ils savent qu'on va craquer presque tout le temps. Ça fait aussi
oui,
partie.
Ça jamais tué quoi que ce soit dans l'industrie du cinéma ou des séries télévisées.
Oui,
de
voilà.
C'est l'offre
et la demande.
Et
voilà.
Si on prend l'industrie du cinéma qui a un passif bien plus important que celui du jeu vidéo, ça permet de continuer à avoir des œuvres qui sont accessibles pour les nouvelles générations sans avoir à conserver forcément le matériel d'époque, ce qui est pas forcément évident pour tout le monde. Bon, bah là c'est un petit peu pareil. Là, il y a Konami qui vient de ressortir deux collections Castlevania et Contra.
Oui.
Je suis super content de pas avoir à sortir ma Mega Drive, à la brancher, etc.
Pour rejouer à Hard Corps, pardon.
Donc, il y a du bon aussi.
Exactement. Certains valent vraiment le coup. Et tu te dis oui, c'est super. Voilà, j'ai tous les jeux dans un tas de trucs. C'est génial.
Après,
et d'autres où on se dit, putain, ils ont quand même été paresseux. C'est un peu la facilité, quoi.
C'est difficile de se focaliser sur le fait qu'il n'y ait que ça. Parce que là, franchement, l'inverse de jeu. Nous, ici à Paris, quand on devait écrire des trucs dessus,
mais c'est une question que
c'était
pose, hein,
impossible. Après,
la seule conf Microsoft,
il y en a trop.
Ça a été un tunnel de découverte de tout un tas de trucs.
Oui. Mais c'est pour ça aussi que moi, ça me choque pas plus que ça, parce que ça se fait pas au détriment du reste.
Absolument.
Et toi, on te
s'il y avait que ça, à la limite,
et
oui.
On te force pas à y jouer. Enfin, vous vous rendez compte là sur la petite liste qui est là, il y a comme quand tu la regardes comme ça, tu dis qu'il y a beaucoup de jeux. Mais par rapport à tout ce à quoi on a joué ou ce qu'on a vu pendant le 3,
c'est 1%.
Moi, j'ai la grande majorité des trucs auxquels j'ai joué ou que j'ai vu, c'était des nouveaux jeux.
Ouais.
Et donc ouais, la production, je suis pas spécialement craintif vis-à-vis de ce qui se passe. Et faut en plus garder à l'esprit qu'on est en fin de gêne. Et donc je pense que des nouveautés nouvelles,
ils vont les apporter
encore. On va en bouffer
encore
l'année prochaine. On aura un paquet l'année prochaine à l'E3. Donc non, moi ça m'a pas choqué. À aucun moment je me suis fait la réflexion. Il y a que des remasters ou des trucs comme ça.
Et puis pour certains,
Dragon sur Switch, putain, mais voilà quoi.
Et pour certains, comme on le voit là, en l'occurrence Romancing Saga 3 et puis même Seiken Densetsu 3, c'est des jeux qui étaient jamais sortis officiellement.
Encore un cas
en Occident. Donc c'est, alors je vais pas dire que c'est des nouveaux jeux, mais c'est la première fois qu'ils sont proposés, traduits correctement, etc., etc. Donc c'est pas négligeable non plus.
Oui, il y a du bon et du moins bon, et effectivement,
comme les chasseurs.
C'est exactement ça. Bon bah, visiblement tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. C'est plutôt.
Non mais c'était.
Une bonne
en fait, c'est
que...
trop quoi. Là, je vous jure, j'en peux plus. Il y a trop de jeux. Non, mais vraiment.
Ah oui, oui.
Ah oui, non, mais c'est épuisant. Psychologiquement, tu te dis qu'il faut faire des croix sur tellement de trucs maintenant.
Mais oui, clairement. C'est impossible, quoi. Cette E3, en fait, c'est que ça te montre. Chaque année, le 3, il te montre que. En fait, t'as envie de jouer à des jeux, mais.
En fait, tu peux pas.
Mais tu pourras jamais.
Tu pourras jamais.
Tu n'auras jamais le temps de jouer à tous ces jeux. Et Dieu sait qu'on t'en montre vraiment beaucoup.
Tu pourras juste regarder les cinématiques et c'est tout. Ah, c'est beau ce jeu.
En fait, le 3, c'est là pour te dégoûter, quoi. Pour te dire, bah voilà, regarde, t'as vu, devant toi, il y a plein de bouffe. Regarde, toute cette bouffe là pour toi, mais tu peux pas tout bouffer. Bah là, c'est comme ça.
Trash, j'ai une question parce que t'es plus ou moins la seule personne qui peut y répondre.
Non.
Est-ce que c'était pas déjà le cas?
C'était mieux avant, tu crois ou pas?
Est-ce que c'était pas déjà le cas dans les années 90? Sauf que, comme dans les magazines, l'espace était restreint, donc fallait forcément faire une sélection et globalement. On parlait de moins de jeux, mais il y en avait autant, c'est juste que...
Non, honnêtement, il n'y en avait pas autant, mais par contre, quand on faisait des news spéciales E3, c'était des petits carrés comme ça, dans les pages, ouais. Et c'était des tunnels et
plein
des tunnels de pages oui,
donc
des jeux.
Il y en avait beaucoup aussi.
Oui, il y en avait déjà beaucoup.
Ouais, mais t'as le démat aujourd'hui. T'as plus besoin de trouver forcément un éditeur physique, plus un magasin.
Mais c'est vrai qu'à une époque, quand il y avait des gros E3, ouais, c'était ça. Hein. C'était des pages et des pages, des tunnels de news, des jeux obscurs que tu voyais, revoyais jamais après. Quoi. C'est, à part des gros titres, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais Street Fighter, je sais pas combien. Voilà. Là, tu le mettais un peu plus en avant, mais des news où on mettait en avant, enfin, où on parlait de jeux sur des petits carrés comme ça, t'en avais peut-être 6 ou 8 par page, on en faisait un paquet, quoi. Mais oui, il y avait déjà beaucoup de jeux à l'époque comme ça qui passaient un peu inaperçus, mais c'est vrai qu'on parlait quand même parce que voilà, ils étaient là.
Mais comme le dit Thomas, c'est vrai qu'avec l'essor du jeu indé, etc., ça a encore plus de jeux par-dessus, parce qu'avant, il fallait forcément un éditeur dans la plupart des cas.
En plus, Google Stadia, Playdia, machin, enfin voilà quoi.
Ah oui, alors si quelqu'un sort un jeu sur la Playdia en 2019.
Vous l'avez pas vu Playdia du coup là-bas?
Mais Playdia, c'est une console Bandai sortie qu'au Japon dans les années 90.
C'est pour ça que je me suis trompé. Bah oui, tu m'as envoyé dans les années 90 alors.
Playdate. Non,
la
Playdate.
Elle était
nulle part. Alors il y a peut-être eu des meetings behind closed doors où elle était montrée, mais en tout cas, à la vue de tous, elle était pas sur le.
Ni la PC Mini évidemment.
Non, bah ça c'est logique.
Qui avait juste une petite présence. Il y a des gens qui l'ont vue, mais quand j'ai vu la carcasse,
elle était montrée, ouais.
Mais c'est tout.
Dans les bureaux de Konami, parce que Konami a pas vraiment de stand non plus à l'E3. Ouais.
Ouais. Bon, sinon, c'était l'E3 des cinématiques ou pas du tout? Non, globalement. Je sais qu'on a déjà parlé de ça, mais.
C'est vrai.
Bah oui, on a déjà parlé.
Parce que pour vous, ouais, mais pas en. La vraie question philosophique, en fait.
Tu veux dire que c'était pas l'E3 du gameplay, c'est ça?
Oui, c'est ça, voilà. Pour généraliser, pour résumer.
Nous, on a beaucoup joué. Hein.
Oui, bah c'est ouais. Ça. Une fois que t'es sur le salon, en fait, c'était beaucoup de hands-on. Et même quand c'était du hands-off, c'était quand même des sessions de jeu. Donc,
Je pense que ça dépend des confs. Parce que par exemple, je sais, vous allez me dire, IS, c'était pas une conf. Mais bon, je l'interprète quand même comme une conf. Pareil, Ubisoft, il y a beaucoup de gameplay qui est passé. Hein. Par exemple, Watch Dogs, ça a duré un quart d'heure, hein, je crois.
Lequel?
Watch Dogs.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'il a.
Tous les jeux qu'ils ont fait, Ubi, il y a eu du gameplay assez long avec. Donc je pense que ça dépend vraiment des confs.
Là, je me base juste de tête sur mes souvenirs. Alors, je me trompe peut-être, mais là, comme ça, sur tous les jeux auxquels j'ai joué pendant le 3, tous les jeux que j'ai vus, je crois qu'il n'y en a que 3 auxquels j'ai pas pu jouer. Je crois que tout le reste c'était du hands-on, ou 3 ou 4. Donc ça fait quand même pas mal. Et sur certains, t'avais des sessions de jeu qui étaient longues. Hein. Borderlands, j'ai quasiment pu y jouer une heure. Watch Dogs, j'y ai joué au moins une demi-heure.
Qu'on voit à l'écran,
easy. Il y a plein de jeux où c'était de longues sessions.
Donc ça prouve qu'il y a bien un intérêt vraiment à être sur place.
C'est pas faux.
À l'E3, que c'est pas, on n'en parle pas en étant à des milliers de kilomètres. Quoi.
Clairement, parce qu'en plus ça peut totalement changer ton appréciation et la vision que tu as d'un jeu. Deux exemples. Le premier, c'est Avengers. Avengers, on a juste vu un trailer pendant la conf Square Enix.
Exact.
Moi, j'ai vu une mission entière, donc j'ai vu vraiment du gameplay. Donc même si j'y ai pas joué, j'ai quand même vu le jeu tourner, j'ai vu ce qu'il propose. Ça a permis d'avoir des infos supplémentaires sur ce qu'est le jeu vraiment. Et à côté de ça, exemple encore plus probant, c'est Jedi Fallen Order. à l'EA Play. Déjà, d'une, la démo Hands Off que j'ai pu voir était plus longue que ce qui a été diffusé pendant le stream d'Electronic Arts.
Ils en ont mis un petit bout le lendemain chez Xbox.
Donc ça déjà, c'est une chose. Mais en plus de ça, alors là c'est vraiment un cas particulier, j'ai pu y jouer. Et donc j'ai pu voir comment fonctionne vraiment le gameplay, j'ai pu voir d'autres choses. En plus j'étais avec un développeur juste à côté de moi qui m'a donné des infos à des moments précis, il m'a dit voyez là c'est comme ça, le genre de truc qu'ils disent pas pendant un stream.
Bah
tu
là,
vois.
Oui,
il dit voyez là vous pouvez pas passer à droite parce qu'on a fait une démo plus ou moins en ligne droite, mais dans le jeu complet, là il y aura un pont et vous pourrez continuer d'avancer, il y aura d'autres choses qui se passeront là-bas. Ça m'a vraiment permis de voir comment se comportent les ennemis, ça m'a permis d'essayer la jouabilité, d'avoir les sensations de jeu, tu vois, et franchement entre le moment où j'ai vu le hands off et le moment où j'y ai joué, ça a vraiment changé mon appréciation du truc, tu vois. J'étais un peu plus rassuré après y avoir joué qu'en ayant simplement vu la vidéo. Déjà en plus le jeu, bon, après il tournait sur une bête de guerre, il m'a semblé plus beau et j'ai vu un peu plus de son potentiel en termes de gameplay, tu vois. Et donc le fait d'être sur place, c'est que comme ça que tu peux avoir ce genre d'expérience. Donc enfin, être sur place, pour moi, ça a encore tout son sens.
Donc vive le 3, finalement.
Exactement, ouais, j'ai parfaitement raison.
Tu peux le dire avec un peu moins d'entrain, s'il te plaît. Parce que là,
j'ai plus de voix, en fait.
Mais t'as pas beaucoup d'occasions dans l'année de voir autant de jeux et si différents.
Oui, et d'y jouer, comme tu le dis, avec les devs qui sont sur place. Parce que mine de rien, une séquence de jeu, même si c'est celle que t'as déjà vue, le fait de discuter avec eux, d'interagir, de poser des questions, les questions qui deviennent au fur et à mesure de tes séquences de jeu, ça te permet de gratter beaucoup plus d'informations que eux ne pensent pas forcément à donner spontanément. Et du coup, bah, ça te fait un vrai supplément derrière. Enfin, ça te donne des perspectives que tu n'as pas avec un simple trailer.
Après, puis, il peut y avoir des coups de foudre aussi, hein, ça se trouve. Contre un dev, tu finis paxé avec lui.
Ah, contre un dev.
Après, t'as des cas particuliers. Par exemple, j'ai joué à Dragon Ball Z Kakarot, et ensuite j'ai fait le.
Ce nom chelou.
Après, j'ai entendu Poufy rigoler de l'autre côté de l'écran. Mais après, j'ai interviewé deux des développeurs du jeu, enfin le producteur et le lead designer ou le réalisateur, je sais plus.
T'as pu entendre en direct les. On ne peut pas en parler pour l'instant.
En partie, oui. Voilà. Mais le truc, c'est que j'avais tellement épluché le jeu que je leur ai posé des questions sur des trucs très spécifiques et ils étaient embarrassés parce que ils avaient pas trop, eux-mêmes pas trop fait gaffe à ça et ils savaient pas quoi me répondre, en fait. Ou alors il y a des moments, il y a même un truc spécifique que j'ai demandé et le mec m'a dit, ah bah vous êtes le premier, et pourtant c'était le deuxième jour. Il me dit, vous êtes le premier à me poser.
Pourtant, je sais que c'est
question.
Thomas qui a envie de recevoir ce genre de remarques, hein. Ouais. Pas toi. Hein.
Non, mais tu rigoles qu'à la fin de l'interview, il m'a dit, le producteur m'a dit, bon bah maintenant va falloir que j'aille jouer à la démo parce que vous m'avez posé trop de questions.
Ah ouais.
Trop de questions
pour
embêtantes.
Pour y répondre, correctement.
Donc il a dit qu'il faut que je retourne checker la démo moi-même.
Tout ça en te maudissant, en partant, un putain de nerd.
Franchement, je crois que je vous l'ai dit, mais il y a un moment où, après avoir posé une question, il y a eu une sorte d'interruption de 5 minutes où le producteur, le réalisateur, le traducteur et genre un mec de Bandai Namco qui supervisait.
Qui passait par là.
Non, ils se sont mis.
Et vendeur de glace.
Et Miyamoto.
Non, mais
je sais pas pourquoi il est là.
Ils se sont mis à se parler tous les quatre, genre en conciliabule, alors que moi j'étais là encore. Hein,
ils voulaient flatter la gueule, je pense.
Ils étaient en train de faire un
conciliabule. Comment se débarrasse du cadavre.
Je crois que si on le fait disparaître, ça va se voir.
Et je serais curieux.
Non, c'est trop.
Non, mais sincèrement, je serais curieux de savoir ce qu'ils se disaient entre eux, parce que ça, je pense que ça serait intéressant. Là, ils ont profité du fait que je parle pas japonais.
Tu l'as pas enregistré?
Ah si, c'est enregistré. Ouais.
Bah,
j'ai l'audio, on pourra vérifier. Mais c'est.
Ça se trouve, ils ont dit, on va l'embaucher lui. Il en sait trop. Ouais, parfait. Non, une autre petite question sur Jedi Fallen Order qu'on vient de voir en vidéo machin. Vous avez joué ou pas ça? Je me souviens.
Oui,
Romain,
c'est toi qui as joué.
Ouais,
mais franchement, ça t'a pas rappelé? Oui, je sais. Tu vas me dire encore, arrête de parler.
Uncharted doit être Traz.
Non mais sans déconner.
Alors,
il y a des côtés Uncharted, merde.
Ah ouais, ça ressemble.
Je
ça
suis
ressemble
obligé
à
de la placer.
Mais ça ressemble au pouvoir de la force.
Il y a des côtés de plein de jeux en fait. Il y a pas que Uncharted. Ils se sont.
Oui, mais il y a quand même un petit côté Uncharted.
Bah pour le
voilà, la grimpette machin
comme ça.
Bah, j'ai vu ça, j'ai fait attends, mais non, mais pourquoi?
Je sais pas si vous avez suivi, mais
c'est vachement bien fait.
Tracer vite, Naughty Dog.
A posteriori, il y a un des devs qui a dit, on l'a pas précisé, mais c'est plutôt un Metroidvania en fait.
Oui, j'ai vu ça.
C'est pas Metroidvania.
Oui, non, mais après c'est la structure. Même
n'importe quoi. Toi, qui es un expert en Metroidvania, c'est pas Metroidvania.
Moi, j'ai pas joué. Donc,
mais tu sais, moi, avant même que j'y ai joué, quand j'ai parlé avec les développeurs, ils me l'ont dit déjà. Vous pourrez passer d'une planète à l'autre. Je le dis dans mon plateau. Hein. Mm. C'est juste que pour les besoins de la démo, ils te montrent genre un truc en ligne droite. Mais le jeu sera pas aussi linéaire que ça. Vous aurez des quêtes annexes qui nécessiteront d'explorer les différentes zones, mais aussi d'aller sur différentes planètes. Et ça, vous pourrez le faire à partir du moment où sur une mission donnée vous avez accès à votre vaisseau, vous pourrez quitter cette planète pour aller à une autre quand vous voulez. Et ça, ça, ça fait partie du truc.
Comme dans Uncharted, finalement.
Exactement, pareil. Tu peux partir d'une planète à une
autre. Les fameuses planètes d'Uncharted.
Par contre, alors ça, je dois vous le dire, j'ai trouvé que le jeu était plus beau quand je l'ai vu. Quand j'y ai joué, que quand je l'ai vu en vidéo. Par contre, les Wookiees font aussi tiep dans la version à laquelle j'ai joué que dans la.
Que ce
la
qu'on
vidéo,
a vu. Ouais.
C'est trop bien les Wookiees.
Ils ont encore 6 bons mois pour finaliser tout ça.
Ouais, ouais.
Mais il y a il y a du potentiel.
Mais franchement, moi qui suis pas un fan de Star Wars, j'aime bien.
Et le.
J'ai bien apprécié.
Bah vu que ça ressemble à Uncharted, ouais, forcément.
Ouais, mais pas tout le temps. Mais je trouve qu'ils ont fait ce qu'il fallait avec ce jeu. Je trouve. Hein.
Et tu vois la séquence où ils pilotent le.
Enfin, un jeu comme ça.
Ils pilotent le vaisseau là.
Quand t'as mis.
Ils disaient que ça fait pas partie du cœur du gameplay du jeu. Mais que à différents moments de l'aventure, il y aura ce qu'ils appellent des Star Wars moments qui cassent le rythme du jeu normal, justement pour te mettre dans des scènes fortes qui feront plaisir aux fans. Donc je pense que il y a celles qu'on a vues dans la démo,
ouais.
Mais il y en aura aussi d'autres où tu seras certainement à bord d'autres types de vaisseaux ou de trucs comme ça, des
trucs swing, il y aura peut-être un truc.
Ouais, des trucs qui cassent un peu le rythme, justement pour faire plaisir aux fans.
Tout à fait.
Je pense qu'il est pas balayé d'un revers de la main si facilement.
Super sympa.
Il donne plutôt envie. Hein.
Bah oui, puis il paraît que le héros il fera non ouais, à chaque fois qu'il rentrera en plus, donc ça va te plaire.
Oh merde,
ça va cartonner.
Oh merde. Merde.
Ouais, parfait, on a fait un petit à peu près le tour quoi, quand même. Bon après évidemment comme pour les autres trois, hein, vous avez tout sur le site, hein, toutes les news, voilà. Tous les reportages, tous les vlogs.
Merci à Eve d'ailleurs.
Voilà, 350.
Il y a encore quelques interviews qui arrivent.
Il y a des interviews qui arrivent, voilà. Que Romain et Thomas n'ont pas finalisé encore. Parce que Poufy dormait.
Et ce qui est marrant, c'est que pendant qu'on était là-bas, il y avait des rumeurs.
Là-bas.
Des rumeurs gérassiennes qui disaient que le 3 l'année prochaine, ouais, ça serait pas à Los Angeles ou des trucs comme ça. Et en fait, ça s'est confirmé que si, il y aura un E3 à Los Angeles.
Décidément.
Je pense qu'on aurait dû faire.
Maxime, tu es très fatigué.
Je lui ai dit, quand on était là-bas, on aurait dû faire un anti-bingo. Ou genre quand t'avais une ligne de mauvaise prédiction de Maxime, tu gagnais.
Je pense qu'on va l'embaucher, il va faire une émission de prédiction surtout. Ouais.
Ceci dit, il y a deux ans, on parlait de Las Vegas hein, déjà. Donc bon.
Ou non mais Las Vegas, c'est une rumeur qui revient régulièrement parce que souvent il est question de travaux au Convention Center qui rendraient le truc inaccessible pendant des mois.
Avant d'agrandir.
Sauf que là, en l'occurrence, visiblement, ça sera pas pour l'année prochaine parce qu'ils ont confirmé du 9 au 11 au Convention Center de Los Angeles.
Exactement.
On est bon pour retourner en Californie.
À signaler si ça se passe à San Diego, parce que le Convention Center
de San Diego
il défonce et la ville est géniale. Je suis désolé, je prendrai la place d'un de vous deux.
C'est vrai?
Bah vas-y. Je
moi je suis l'américain.
Toi t'es l'américain, je peux pas. Je prendrai la place de Morgan.
Tu prendras la place de Morgan, c'est ce que j'allais dire.
Voilà, je prendrai la place de Morgan. Je suis un peu moins charmant.
Morgan qui a sympathisé avec toute l'industrie du jeu vidéo pendant une semaine.
Et avec tout Los Angeles.
Non mais parfois elle a tapé la discute sans s'en rendre compte avec des gens super influents et elle était à milieu de savoir avec qui elle parlait.
Ouais, mais c'est ça la surpuissance, c'est quand tu connais pas les gens, tu t'en fous, tu vas, tu tapes la discute.
Ouais, salut mec, je m'appelle Morgan.
Ah non.
Et toi tu t'appelles comment? Shigeru Miyamoto.
Bonjour, merci. Bon bah parfait alors messieurs dames, on a fait un petit peu le tour de tout. Avant de vous redonner la parole, juste pour que chacun puisse donner son meilleur moment ou son jeu du salon.
Son moins jeu.
Vous n'y couperez pas, moi non plus. Juste un petit.
Un bon jeu du salon, c'est Uncharted.
Le petit sondage qu'on a mis sur le site avec la question quelle a été la meilleure conférence de l'E3 2019 pour vous? Eh bien, je vais donner les résultats presque finaux. Vous pouvez encore voter si vous voulez, mais bon, je pense que ça bougera plus trop maintenant. À 42%, c'était Nintendo avec son fameux Nintendo Direct. Bon, quelque part, c'est un peu logique. 27% Xbox quand même, donc vous avez quand même bien apprécié. Square Enix à 13%. Et j'aime bien le Devolver à 3% quand même, c'est cool.
Ouais.
Et personne, tout était nul à 9%. Voilà. Vous pouvez revoter si vous voulez, hein, pour faire pencher. La balance d'un côté comme de l'autre. Pas.
Voter Devolver.
Franchement, si tu voter regardes, Devolver. Si tu suis cette 3 même d'ici, que tu regardes tout et que tu te dis tout était nul.
Ouais. Oui, bah bon.
Bah voilà. Tu vois quoi.
Après, en termes de présentation, les conférences, faut aussi prendre cette.
On parle que des conférences.
Ouais,
là.
Je sais bien, mais malgré tout, enfin, c'était pas
dramatique.
Oui,
non, c'était pas catastrophique. Il y avait pire que ça. Oui.
À part Bethesda, qui pour moi est dans les tréfonds de l'intérêt des conférences.
Oh
mais
tout de suite. Quel scandale.
Yeah.
Tu sais qu'apparemment même des gens de chez Bethesda étaient saoulés des cris.
Ils sont partis en courant. Il y avait même qu'il y avait des écouteurs durant la conf. Bon bah messieurs, c'est l'heure de connaître votre jeu au moment du salon. On va commencer par Romain. Alors c'est quoi ton jeu, pas 50 ans. Sinon c'est trop facile. Parce que tu l'as pas mis sur le petit papier là.
Je vais pas dire mon jeu du salon, je vais dire mon moment du salon. c'est de rentrer dans un petit bureau, dans c'est une vrai, zone hein. Totalement au fin fond
du salon,
de la partie business du convention
ça
center.
Un petit monsieur en imperméable.
Et là, et là, t'as Yu Suzuki qui est derrière une table, qui t'attend et qui te montre la manette
et qui dit monsieur bonjour,
et qui te dit vas-y. Et là, tu prends la manette et tu,
ah, tu commences. Fais, je peux, vous êtes sûr,
et
hein,
tu commences à jouer à Shenmue 3. Tu commences à jouer à Shenmue 3 avec après quasiment 20 piges d'attente avec Yu Suzuki à côté de toi. Alors
et là tu lui dis ça ressemble à Uncharted et là tu te fais virer tu te fais virer à coup de pied au cul.
Les haters vont hater
parce qu'ils hatent
et certains critiqueront avec avec plus ou moins de bonne foi.
Ça non, je peux pas.
De quoi?
Les petits enfants qui font du tai chi là, je peux pas. Je suis désolé mais là non. Tout ce que tu veux mais pas ça.
Et bah ouais, c'était un grand moment pour moi
Ah bah c'est sûr que oui, vivre cet instant, ça doit être sympa.
Et je pense que le jeu est loin d'être aussi catastrophique que certains veulent bien le dire. Voilà. Il n'est pas parfait, comme le montre le visage qu'on voit à l'écran.
C'est bien qu'il y a un moment de silence, tu sais. Je me disais, qui l'a parlé là ?
Non. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, mais ce que certains semblent avoir totalement occulté, niveau visage et enfin niveau modélisation et animation, c'est un peu craignos par moment.
Mais après, pour le reste, c'est du Shenmue quoi.
Pour le reste, le jeu a clairement des qualités et c'est vraiment un Shenmue quoi. Donc
exactement.
Voilà. Il a l'air très très Shenmue.
Très très Shenmue.
Très très Shenmue, tout à fait. Parfait. Ben merci Romain. Écoute,
je t'en prie.
Camille. Vue de Paris, de la team Paris.
Ouais, bah moi, deux moments clés. Alors,
John Wick.
Un moment, c'est Keanu Reeves.
Keanu Reeves.
Qui est apparu sur scène pour Cyberpunk, que j'attends. Bah, c'est surtout mon jeu que j'attends le plus de l'année prochaine.
C'est vrai.
L'autre moment, ça serait alors un jeu pour le coup qui a beau passer inaperçu, mais c'était Empire of Sin de Brenda Romero, qui est la femme de Romero.
Effectivement, il est passé inaperçu. Hein, je sais même plus ce que c'est.
Mal la croisée de John Romero, je crois.
Oui, je pris une photo avec lui. Ouais.
Bah oui, avec tous ses cheveux, tu m'étonnes.
C'était le cousin machin dans la famille Adams. C'était juste des cheveux avec des lunettes de soleil.
Il s'est coupé les
cheveux.
Il a les cheveux longs.
Oui, parce que
j'ai les cheveux.
Non, il les avait coupés il y a quelques années. Ça.
Justement, Tatov, si tu veux, mais il est fidèle à lui-même. C'est bien John Romero tel qu'on le connaît.
Bah, qui travaillera d'ailleurs sur le jeu. Et
Camille finit, ouais.
Bon, il fera quelques niveaux avec le moteur de Doom.
C'est lui qui va tout faire en fait.
Avec le moteur de Doom. Hein,
c'était assez marrant parce que ça a été annoncé à la conférence Nintendo alors que c'est un jeu qui sort aussi sur PC, etc. C'est un jeu édité par Paradox qui est un studio très PC. Et donc ça prouve aussi le désir de Paradox Interactive de petit à petit aussi grappiller du marché sur les consoles puisque pour l'instant ils sont un peu absents. Mm. Et donc c'est un jeu de gestion un peu à la XCOM. Dans lequel on se retrouve à gérer une bande de gangsters à l'époque d'Al Capone et j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup cette atmosphère et franchement ça a l'air vraiment
ouais, ça avait l'air sympa la bande annonce.
Qu'est-ce qui est fou, c'est qu'ils sortent sur Switch quoi.
Ça sort sur Switch.
Tu te demandes attends mais qu'est-ce qu'il va faire.
Blizzard commence à porter des jeux ultra PC sur Switch,
c'est ça,
donc
ouais.
Si on s'en donne la peine, il y a des choses à faire.
Si on s'en donne à cœur joie.
Oui, puis c'est le projet de cœur, si j'ai bien compris, de Brenda Romero.
Exactement, ouais. Et puis c'est pas une atmosphère courante dans le jeu vidéo, les années 20.
Non, la Prohibition, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Hein.
C'est toujours une période historique très chouette
très chouette
à dépeindre.
Ouais. Bah, d'ailleurs,
il y a une ambiance vraiment particulière qui se dégage de ce moment-là.
Clairement, bah, Mafia, premier du nom, pour moi c'était un excellent jeu. Et on retrouve un peu cette atmosphère-là. D'ailleurs, quand on voit le logo, ça
ressemble vachement. Hein.
Ça ressemble vachement à ce Mafia.
C'est vrai que.
À chapeau, un père, sulfateuse, tu y es.
Et donc ouais, ça a l'air plutôt cool. Et puis Paradox Interactive, en général, ils éditent que des bons titres. Alors, j'ai rarement vu un jeu édité par Paradox qui est en dessous de la moyenne. Donc là, honnêtement,
donc ça arrive.
J'en fais confiance.
Printemps 2020, effectivement.
Exactement.
Thomas, quel était ton jeu, ton moment du salon apocalyptique?
Bah, un moment particulier. C'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué, mais c'est pour reprendre le moment de Romain.
Quand j'ai joué à Shenmue.
Ouais, exactement.
C'était ça ton moment de
Romain.
C'est le fait de foutre les mains enfin sur FF7 Remake après une longue présentation de Kitase qui te martèle pendant une demi-heure que c'est la version sublimée d'un classique pour les nouvelles générations machin.
New Generation.
Tu finis enfin par pouvoir y jouer et le fait de découvrir les mécaniques du système de combat où je me suis dit ah mais c'est beaucoup plus intelligent que ce que j'avais imaginé en fait. Parce que ça n'avait pas été présenté jusqu'à maintenant, mais ça n'est pas qu'un espèce de FF15 avec le skin de FF7. Le système de combat, il est quand même assez intelligent, puisque le côté, on garde le côté tactique RPG, dans la mesure où tu vas activer, en fait, avec le bouton, je crois que c'est le bouton croix, tu vas mettre le jeu dans une espèce de stase. Alors le temps ne se fiche pas, mais il s'écoule hyper lentement et il te laisse le loisir de décider de ta stratégie pour les personnages qui t'accompagnent. Alors la démo à laquelle j'ai joué, qui était malheureusement très très courte, tu n'étais accompagné que de Barrett, donc Cloud et Barrett, il n'y avait pas Tifa dans l'équipe, mais ça permettait de se familiariser un petit peu avec ces mécaniques qui du coup offrent un côté vraiment stratégique tout en permettant des combats en temps réel vraiment plus dynamiques. Donc il y a quelque chose de très intéressant dans le gameplay de Final Fantasy VII Remake. Alors ça n'empêche pas toutes les nombreuses questions qu'on peut se poser sur son découpage, sur ce qu'on va pouvoir voir dans le premier épisode qui a priori sera uniquement centré sur Midgar. Enfin voilà, il y a encore énormément de choses à éclaircir, mais en termes de mécanique, j'ai été relativement rassuré en fait sur ce que le jeu allait proposer, et aussi en termes de musique, j'en ai malheureusement pas assez parlé dans mon plateau, mais les musiques sont ma boule. Il y a un travail de réorchestration qui est absolument incroyable. Parce
c'est
que
exactement les mêmes que...
C'est les mêmes thèmes. Alors, on a entendu trois thèmes, on a entendu Bombing Mission, le thème des combats et celui de la Shinra pendant cette présentation. Et en fait, ça s'enchaîne sans que tu t'en rendes compte, et t'as une variation, ne serait-ce que sur Bombing Mission, t'as une variation incroyable qui accompagne le truc et qui fait que ça n'est jamais redondant et c'est extrêmement intelligent. Et
ils n'ont pas voulu vous dire qui était derrière l'orchestration.
Et nous ne savons pas qui travaille sur les musiques pour l'instant.
Je suis prêt à parier sur Shimomura parce qu'elle est méga forte et qu'elle en est capable.
Ce serait fabuleux qu'elle soit. Elle a un talent tellement immense, cette compositrice, mais on en a parlé avec les gens de Square Enix. Alors, évidemment pas avec Kitase, qui était... imprenable derrière ces traducteurs et ces goons qui l'entouraient, mais on a parlé un petit peu aux gens de Square Enix et pour l'instant on ne peut pas savoir qui se cache derrière les orchestrations. En tout cas, voilà, ce que j'ai vu m'a vachement plus rassuré que la dernière présentation qui m'avait pas mal refroidi. En l'occurrence, c'est là le fait d'avoir posé les mains dessus, je vois le potentiel de Final Fantasy VII Remake et c'était pas forcément gagné.
En tout cas, si tu voulais à l'E3 avoir une petite pause musicale sympatoche, il y avait deux endroits où te rendre, sur le stand Square Enix, enfin sur le milieu du stand Square Enix où ils passaient plein de musique de leur jeu, c'était assez... il n'y avait pas trop de bruit, donc tu pouvais vraiment en profiter, et à côté du stand Bandai Namco, où ils passaient des musiques de l'anime DBZ, des musiques
réorchestrées, elles aussi.
Et plutôt jolie pour le coup, et plusieurs fois je me suis arrêté quelques instants sur les deux stands pour écouter un peu les musiques, c'était assez plaisant.
Et juste un tout petit bonus, parce que vraiment c'est un jeu qui m'a fait beaucoup d'effet, c'est Fall Guys, qui est édité par Devolver, que j'ai pu essayer sur le camp de hippie de Devolver qui était installé en face du Convention Center.
Alors là, ça me dit rien, c'est quoi
comme
ça
chaque année.
Juste à côté de chez nous, encore plus.
Ah oui, le même trottoir.
Fall Guys, d'accord.
C'est un jeu, c'est un party game un peu multijoueur avec énormément de jeux différents. Il y en aura une trentaine au lancement, dans lesquels vous avez une centaine de joueurs qui vont s'affronter, donc sur des mini-jeux de 2 minutes grand maximum.
C'est un Battle Royale.
Voilà, avec cette dimension de Battle Royale qui fait qu'à chaque tour, en fait, vous avez une partie des joueurs qui sont éliminés jusqu'à l'épreuve de fin dans laquelle il faut aller chercher une couronne. Là, en l'occurrence, on avait un parcours d'épreuve à la Takeshi Castle.
Ça, c'est vraiment
un jeu où il fallait arracher la queue de castor de ses congénères pour être celui qui avait une queue à la fin du timing, et une course où tu devais passer à travers des portes que tu ne savais pas ouvertes ou fermées avant de te cogner éventuellement contre elles. Et c'était vraiment super fun. Ça a l'air d'être juste un party game dit comme ça, mais vraiment,
oui, ça me rappelle un jeu sur PS Vita qui était un peu comme ça, mais
j'ai joué
pas du tout à plusieurs.
Il était tellement ravi, Thomas, quand il est sorti de cette presse.
J'ai joué 20 minutes, c'est 20 minutes où j'ai eu la banane. Mais vraiment, je me suis dit, mais depuis combien de temps t'as pas été aussi joy
depuis Uncharted
en jouant à un truc vraiment, il y avait une ambiance incroyable. Et en plus, les développeurs espèrent en faire un jeu avec des saisons, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles épreuves qui vont arriver au fur et à mesure pour te faire revenir.
Tant qu'à faire.
Des skins qui seront purement cosmétiques, etc. Mais j'ai passé un moment...
PS4 et PC, je vois. Je crois qu'ils sortent sur Switch.
Et ils vont considérer... En fait, ils se focalisent d'abord sur la sortie PS4 et PC. Et dans un temps 2, j'aurais parlé de la Switch et de la Xbox One, ils la considèrent. Mais ça sera forcément après la sortie initiale sur ces deux plateformes-là.
Je trouve ça hyper mignon et c'est marrant.
C'est super basique. Hein. Ouais, ça rappelle un peu les jeux japonais complètement débiles.
Oui, tout à fait.
C'est ça qui est marrant.
Mais c'était tellement positif que je suis obligé d'en parler.
Ouais. Si Thomas Gruge rajoute un deuxième jeu...
Je
rajoute juste un petit coup de cœur qui m'a vraiment étonné. Un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est The Outer Worlds, le nouveau Obsidian, avec un système système de RPG, de dialogue et de choix,
exact,
genre super travaillé, et avec des idées. Je vous invite à aller écouter le plateau pour pas durer trop longtemps, mais avec des idées que j'avais, je pense, jamais vues dans un jeu auparavant et des trucs super bien pensés. Ça m'intéressait pas vraiment de base, mais la présentation m'a vraiment bien plu et je trouve que c'est un jeu qui a énormément de potentiel. Et la technique, c'est vraiment pas son point fort. Hein. Non, non. C'est vraiment le reste et sa gestion des, de l'équipe et des PNJ, etc. Franchement.
Obsidian.
Obsidian. Ouais. Vraiment.
Obsidian, toujours Obsidian.
Ça s'annonce, ça s'annonce très bien. À surveiller de près.
Très très bon. Ouais.
Voilà. Et toi.
Plume alors maintenant.
Ah, Plume d'abord.
D'accord. Oui, Plume. Toi, tu veux pas le faire avant moi.
Si, si, le meilleur pour la fin. Alors, Uncharted.
Ah, bah moi, je peux te dire ce que c'est le mien, c'est pas très compliqué. C'est Breath of the Wild 2. Pour moi, c'était le moment. La petite cerise sur le gâteau que personne n'attendait quasiment, c'est après.
Là, tu l'as vécu en live avec Tiger.
Après tout le monde, on était en live avec Tiger. Et je l'avais annoncé avant la conf.
Donc c'est enregistré, ça.
Regarder le pré-show, bien sûr. Okay. Bah, non, c'est le pré-show, il n'a pas été enregistré. Ah, bah si, il a été enregistré.
Alors,
non.
Pour info,
non, pas le pré-show, pardon.
Pour info, je vous disais tout à l'heure que certains
ont,
ont pu voir Breath of the Wild, enfin le Nintendo Direct avant.
Oui,
le truc.
Oui, forcément.
Bah, cette séquence-là n'était pas dedans.
Ah, bah voilà.
Allez, pour il l'avait gardé. Il l'avait gardé.
Je suis sûr qu'il soupçonnait pas qu'il montrerait un petit bout.
Il l'avait gardé spécialement pour la surprise et surtout pour que ça fuite pas.
Bah oui,
que ça fuite pas.
Bah oui, parce que là, c'est sûr que ça serait parti dans les internets très facilement. Bah, bon, voilà, pour moi, c'est le moment parce que voilà, c'est la suite d'un jeu absolument extraordinaire, un des plus grands jeux de l'histoire de l'humanité. Et on a hâte d'en voir plus, évidemment, quoi. On sait pas où ça se passe.
On sait pas quand on aura le temps d'y jouer non plus.
Et voilà, exactement. Oh, bah oui, ça, pour le coup. Et c'est encore mon fils qui va le finir parce que je pourrai pas y jouer. Vu qu'il va squatter la
Switch. S'il arrive à arrêter Fortnite un peu.
Ouais. Ah, il commence à jouer à War Dogs et tout. Hein. Pas War Dogs, à Watch Dogs, pardon. Ah, ouais. Voilà, voilà. Bon, bah pour moi, c'est encore. Voilà. C'est un des moments du salon facile. La plume.
Moi, je vais pas être original. Hein, Keanu Reeves, forcément, pour le moment.
C'est vrai.
J'en reviens toujours pas d'ailleurs d'avoir vu Keanu Reeves sur scène. Arrivé pour Cyberpunk, c'était pour moi c'était n'importe quoi. Et le jeu que j'attendais pas forcément me hyper pour cette 3, c'était Final Fantasy VII Remake. J'y croyais très moyennement jusqu'à aujourd'hui. Et puis bah pendant la conf Bethesda, la séquence de gameplay qu'ils ont montré, elle m'a juste super convaincu.
La séquence de gameplay, la conf
Square
Bethesda.
La conf Square Enix. Oh là là,
c'est. Et là, tu vois, hein, tu te fous de ma gueule,
Maxime
mais...
Gérassi.
Ouais, non mais ouais, c'est Dino Crisis, ça m'a fait de l'effet, c'est pour ça. Non mais pendant la conf Square Enix, la séquence, ouais, elle m'a énormément botté. J'étais toujours un petit peu inquiet par rapport au système de combat parce que je suis pas un gros fan du système de combat de Final Fantasy
XV. Mais si, il vient de résumer, et... c'était super bien.
J'ai vu les impressions de Thomas ensuite. Voilà, si tu me laissais le temps de parler.
Faut laisser la narration le temps de se développer.
Faut laisser la science se produire.
Et donc j'ai vu les impressions de Thomas. ça a confirmé que ça allait être absolument d'enfer. Donc voilà, ça c'est mon moment et mon jeu.
Ah, ça c'est fait. Là. Bah parfait, hein, très bien. Par contre, il y a un jour qu'on n'a pas trop parlé. Non, on va pas relancer le truc. Mais
vas-y.
12 minutes.
On l'a cherché, on l'a pas vu nous. Donc
Je trouve qu'il mériterait qu'on passe un petit bout là.
Oui, meilleur trailer de l'E3.
Le trailer était chaud, mais ça a intrigué tout le monde.
Malheureusement.
Voilà, 12 minutes. Putain, voilà. Moi, c'est un des jeux auxquels on a.
Malheureusement,
dit,
la rédaction n'a pas voté à l'unanimité pour 12 minutes pour le meilleur trailer. Mais franchement, c'est le meilleur trailer de l'E3.
Honnêtement,
je veux dire, en 2 minutes, ils ont réussi à mettre de l'angoisse.
12 minutes même.
Du mystère.
Tease à mort, quoi.
C'est super efficace comme trailer et vraiment, ça donne envie d'y jouer immédiatement, quoi.
De ce que j'ai vu, je crois que, excuse-moi, PC Gamer avait l'occasion de mettre les mains dessus et ils ont décrit ça comme un jeu à la Kubrick. Enfin, un jeu.
Ah oui, un peu space.
Avec une atmosphère d'un film de Kubrick, donc à voir ce que ça va donner.
Mais ça se sent quand même un petit peu. Hein,
ce qui est étonnant, c'est qu'on a là en ce moment plusieurs jeux qui traitent de la boucle, enfin de l'idée de boucle temporelle et de jeu de gestion de la temporalité. Parce que il y a celui-ci, il y a le jeu
Control,
il y a Man of Medan aussi.
Non, c'est
Twin Mirrors, pardon.
Ouais, il y a le truc de Bethesda qui a été annoncé pendant leur conf.
Deathloop.
Et quelques semaines avant l'E3, il y a la suite de Un jour sans fin en jeu vidéo sur PlayStation VR. Donc, visiblement, ils se sont un peu passé le mot et la gestion du temps et des boucles.
Plus Minit il y a quelques mois, c'est sûr que ça.
Mais c'est vrai que c'est intriguant, quoi. Tu te demandes ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire.
Cet angle de caméra,
pour
en
sortir
plus.
Du truc. Et voilà, exactement. Alors, est-ce que ça va être tout le temps comme ça? Je sais pas, mais.
Non, mais c'est un trailer qui a fait l'effet à tout le monde,
mais
je crois.
Voilà. Ça, c'est un des trailers qui nous a plus hypé et plus. Donc,
et c'est là où tu te rends compte de la puissance du truc, parce que s'il a réussi à marquer tout le monde comme ça,
alors
au milieu.
Basique, quoi, c'est
tout, et surtout
tout
au milieu d'un flow de 60 jeux.
Ouais, exactement.
Genre, enchaîné très rapidement, c'est un signe.
Mais il est ultra bien conçu. Hein. Ouais. Et Annapurna a toujours le nez creux, de toute façon.
Exactement, ouais. C'est vrai qu'ils font toujours des jeux un peu space, mais voilà. Et bien voilà, tout ça va s'achever sur ce 12 minutes trappé dans un time loop. n'est-ce pas?
T'es trapé dans un time loop.
Exactement. Ainsi s'achève ce bilan de l'E3 2019. Bon, on aurait pu encore en faire 4 heures, mais voilà, vous avez tout sur le site.
Regardez les vlogs, ils sont sympas.
Tous les vlogs, complètement débiles.
C'est que je ne les ai pas vus, moi, encore.
Moi, pas tous.
Justement, allez-y.
Parce qu'en fait,
allez-y, c'est de la bonne.
Je me suis fait spoiler ce qui se passe, donc...
Bah oui, forcément.
Je sais juste qu'il y en a un où on entend Traz enfin hurler à la caméra. Donc c'est un
hurler.
Ouais. Tu sais, les cris que tu nous fais comme ça, il y a un moment où on te filme.
Tu sais, quand tu jures, quand tu pars aux toilettes ou dans la cuisine. Ouais.
Je l'ai pas vu,
c'est si, oh, je, moi je ne fais jamais ces choses-là, voyons, pas du tout.
Non, mais je savais pas que ça avait été.
Là, il y a la preuve en vidéo.
Attrapé dans un time loop.
Eve, elle est suffisamment queen pour réussir
à faire ça. Merci à Eve, merci à Poufi, merci à toute la rédaction.
Et alors, merci
à Paris, Innocent Jules.
Et merci à vous pour le coup, parce qu'on a eu là-bas des retours globalement très positifs de votre part.
Tout le monde était content.
Et franchement, après un salon qui te vide complètement, qui te fout sur les genoux, ça fait tellement plaisir d'avoir des retours positifs comme on a pu en avoir.
Tu non, mais... un coup de latte, sinon.
Merci public, je t'aime.
Excuse-moi, mais...
Excuse-moi, à base.
C'est le genre de truc qui fait vraiment super plaisir quand t'es rincé en fin de journée, de voir que vous avez apprécié...
Il y a des moments où Thomas est en boule en train de pleurer dans l'appartement et dans la douche avec une douche froide.
C'est parce qu'il n'en pouvait plus que Maxime lui annonce des trucs qui n'arrivaient pas.
J'étais obligé de lui montrer son téléphone pour regarder les mentions, elles sont positives, etc.
Elles sont positives.
Et Maxime était là, non mais je te jure, Yoshi sera à la conférence Microsoft.
Ouais, foutez-vous de moi,
je te le jure.
En attendant, vraiment, merci à vous d'avoir... Merci, cher public. Au rendez-vous.
Merci, Epion. Merci, Miyamoto. Merci, Poufi.
Quel bâtard.
Merci. Non, mais on déconne, hein, Epion. Détends-toi. Ah, détends-toi. T'es marche comme prévu. Voilà, mais finalement, c'est le podcast qui nous achève et qui achève la saison.
Oui,
ouais, ouais.
Même si il y aura peut-être un podcast ou deux cet été.
Comment ? Gamescom déjà ? Peut-être non,
oui,
peut-être
non,
pas
non, mais il y aura peut-être un petit peu intemporel.
Des petits bonus cet voilà. été, des trucs
mais
comme
oui,
ça.
Il y en aura un, enfin, un ou deux, minimum un juillet.
On fera un podcast trappé dans un time loop où on fera la même 15 secondes qu'on répétera à l'infini.
C'est tout à fait cela. Eh bien, merci à tous. Hein, merci à la technique. À merci au dieu du jeu vidéo.
Merci Uncharted.
Merci Uncharted, évidemment.
Merci Naughty Dog pour l'ensemble de son
blog. Merci Jedi Fallen Tiepi. Et merci à tutti. Et merci au PC qui est pas mort depuis tout à l'heure.
Ah!
Non, ça suffit.
On a oublié de remercier quelqu'un ?
Non, je viens de penser un truc.
Merci à Maxime Gérassi.
Un petit coulisse de l'E3. On sait que Sony n'avait pas de stand.
Si, ils en avaient en fait.
Mais Sony avait une présence à indirectement à l'E3. Parce que vous savez, l'hôtel Figueroa, c'est celui où il y a les grandes peintures sur les trois tours. Là.
Merci.
Et bah, le premier soir, je crois qu'on allait dîner ou je sais plus trop ce qu'on allait faire.
Dans un 5 étoiles.
Il y avait quelqu'un qui attendait devant avec un panneau avec le logo PlayStation pour indiquer que c'était là que ça se passait.
Mais c'était business.
Donc, il y a eu des business. Et j'ai eu ouï dire qu'il y avait des grands noms de chez Sony qui étaient là en rendez-vous aussi pendant l'E3.
Donc c'est le moment de montrer un petit choses. Peu.
Il n'y a pas trop de dames avec des manteaux de vison, un truc comme ça, non ?
Des dames avec des manteaux.
Qu'est-ce qu'il raconte ?
Des dames avec des manteaux de vison en talons hauts et.
Putain, je crois que t'as trop chaud dans ton chapeau.
Non, mais parce que tu sais, ça peut être
indiquer
des trucs, indiquer à des dames d'aller dans l'hôtel, quoi. Tu vois. Enfin, bon, bref.
J'ai pas compris.
Ah ouais, mais non plus, j'ai pas compris.
Je sais pas, vous avez pas l'expliqué, c'est tordu, c'est pour ça.
Ah oui, là, carrément.
Quant à la candeur.
La candeur, t'as vu, il y a un
homme
qui dort.
T'as compris ce qu'il...
Ouais, il les escortait, quoi. Il leur montrait la voie.
Ah oui, escortait, oui, voilà.
C'est ça. Non, mais si vous voulez, vous demandez.
Putain,
hein,
on vous assure, on est fatigué.
Je crois que vous êtes tous fatigués, là.
On est fatigués, mais en fait...
Mais j'ai toujours pas compris, en fait. Tu voulais dire que les gens de chez Sony appelaient des
non,
putes,
mais on s'en fout.
Ah, bah voilà, quand même. Enfin, quelqu'un qui comprend.
C'est ça. Enfin, quelqu'un qui comprend.
Il se fout de ma gueule. Bon, allez. C'est l'heure de se quitter, je crois.
De vous faire des gros bisous baveux.
Exactement, sinon on va dire n'importe quoi. Merci à tous pour cette saison.
C'est pas le genre de la maison.
Merci à Tutti, il fallait fermer vos putains de gueules. Voilà. Je peux dire le mot de la fin. et voilà. Toi, ton chapeau, tu l'enlèves tout de suite. tu me manques pas de respect comme ça.
Non, mais tu vas te prendre une canne d'aveugle.
Bon, allez, ciao à tous, merci. Et puis jouez bien, portez-vous bien.
Ciao.
Et bonnes vacances si vous partez en vacances.
Salut.
Ciao. Wesh. Ouais, je m'excuse.
Frère,
rappelle de cette partie.
T'es une michetonneuse ou pas?